Europe 1. Europe 1.
Europe 1. Édition spéciale élection américaine.
Europe 1 Special Edition.
Bonsoir à tous, il est 18h sur Europe 1, 6h de moins à Washington et nous sommes en mesure de vous annoncer dans la continuité des annonces des médias américains que c'est donc Joe Biden qui est élu 46e président des États-Unis avec 273 grands électeurs grâce notamment à un succès dans l'état clé de Pennsylvanie. Un dénouement électoral totalement fou 4 jours après l'Election Day alors que Donald Trump s'est retiré pour faire un golf de 18 trous en Virginie avec ses avocats et qu'il semble entamer son combat juridique judiciaire pour contester le résultat de cette élection. Il vient de le dire d'ailleurs, si vous comptez les votes légaux, je gagne facilement. Si vous comptez les votes illégaux, ils peuvent essayer de nous voler l'élection. Nous serons évidemment sur place avec nos envoyés spéciaux, nos correspondants, les spécialistes des États-Unis sur Europe 1, hein, Nicole Bacharan, Corentin Célin, dans un pays divisé comme rarement il ne le fut. Un semblant de terreau, de guerre civile. Quel héritage laisse Donald Trump sur place en débit du rebond économique au cœur de la pandémie? On analysera tout cela notamment avec un expert en géostratégie, ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine. Nous verrons ce que cette nouvelle donne peut changer pour nous, Français, nous, Européens, dans les relations entre l'Amérique et l'Europe vis-à-vis de la Chine, de la Russie, de l'Iran. Tant de dossiers à ouvrir avec vous ce soir. Je vous remercie d'être fidèles à Europe 1. On vous accueille. Il est 18h.
Joseph R. Biden Jr. is elected the 46th president of the United States.
Joe Biden, élu 46e président des États-Unis, annonce il y a quelques minutes par tous les grands médias américains après 4 jours de suspense. Bonsoir Fabienne Lemoyle.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Et on part tout de suite évidemment aux États-Unis. On rejoint Xavier Yvon en direct de New York avec déjà, je le sais, beaucoup d'ambiance autour de vous. Et c'est donc le vote en Pennsylvanie, on l'a dit, qui a fait basculer les choses il y a quelques minutes.
Oui, c'est vrai, on était reparti pour une nouvelle journée de décompte, de cartes électorales, de calculatrices. Et puis il y a environ 40 minutes, des nouveaux chiffres sont arrivés de Philadelphie, la plus grande ville de Pennsylvanie. Des bulletins par correspondance ultra majoritairement démocrates, ce qui a porté l'avance de Joe Biden face à Donald Trump à 30 000 voix d'écart. Sur CNN, John King, le roi des cartes, faisait ses comptes sur son tableau magique quand il a été interrompu par cette annonce.
After 4 long, tense days, we've reached a historic moment in this election.
Voilà, après 4 longs jours très tendus, nous sommes arrivés à cette conclusion historique, a dit Wolf Blitzer, le présentateur star de CNN. Nous sommes en mesure de vous annoncer que Joseph Prominette Biden Jr. est élu 46e président des États-Unis. On a entendu l'émotion dans la voix des présentateurs sur toutes les chaînes, sur NBC qui a embrayé aussi la plupart des autres médias. Et évidemment, cette nouvelle s'est répandue partout dans le pays immédiatement avec des réactions spontanées. Je vais vous faire écouter ma rue ici à Brooklyn, à New York, quelques minutes après l'annonce. Voilà ce que vous entendez, ce sont mes voisins qui tapent sur des casseroles, qui crient leur joie. Ça continue au moment où on se parle. Il y a des gens sur leur toit ici à New York, qui est évidemment une ville ultra majoritairement démocrate. J'ai un voisin qui est en train de passer sur des enceintes très puissantes, la musique de Elton John, Philadelphia Freedom, la liberté par Philadelphie, tout un symbole puisque effectivement, c'est quelques milliers de voix qui ont tout fait basculer, sont arrivées de Philadelphie. D'ailleurs, je vois à la télévision en ce moment que c'est la fête dans le Convention Center de Philadelphie où ont été dépouillées ces dernières voix qui ont tout fait basculer. C'est la fin de 4 années tumultueuses d'une présidence Trump. Donald Trump ne fera pas un second mandat. C'est très rare pour un président sortant de ne pas être réélu. Oui. Et ironie de l'histoire, au moment où cette annonce arrivait sur les télés américaines, au moment où les Américains, heureux de cette élection de Joe Biden, sont sortis, le manifester dans la rue, eh bien Donald Trump, lui, était en train de jouer au golf en Virginie. C'était sa première sortie de la Maison-Blanche depuis 4 jours. L'histoire retiendra ce moment où le 45e président golfait alors que les médias américains annonçaient sa défaite. Joe Biden, lui, peut donc désormais être désigné officiellement comme le président élu, president elect. Il vient d'ailleurs de tweeter son premier message de président élu. Je vais vous le lire. Amérique, je suis honoré que vous m'ayez choisi pour, je le traduis en même temps, hein, vous m'ayez choisi pour diriger notre grand pays. Il y a du travail devant nous, ça va être dur, mais je vous promets ceci, je serai un président pour tous les Américains, que vous ayez voter pour moi ou non. À bientôt 78 ans, il va les avoir dans 13 jours, Joe Biden. Il est le plus vieux président jamais élu des États-Unis. Je vous rappelle que Joe Biden est sorti de sa semi-retraite il y a un an et demi pour, comme il le disait, sauver l'âme de l'Amérique face à Donald Trump. Sauver l'âme de l'âme de la nation, c'était son slogan de campagne. Joe Biden s'apprête à retrouver la Maison-Blanche où il a servi 8 années comme vice-président de Barack Obama. Il ne s'était pas lancé dans la succession de Barack Obama en 2016, trop affecté par la mort de son fils aîné d'un cancer foudroyant. On pensait sa carrière terminée. C'est donc un revenant qui accède au poste suprême à sa troisième tentative pour devenir le 46e président des États-Unis.
On a bien compris, 46e président des États-Unis. On a entendu ce vent un peu de libération dans une partie des États-Unis et particulièrement devant la Maison-Blanche où vous vous trouvez, Mathieu Bock, justement. Je crois qu'on entend l'ambiance autour de vous, hein, effectivement, de cette annonce attendue depuis 4 jours aux États-Unis.
Ah bah ici, c'est la fête. Clairement, c'est la fête. C'est une sorte de... parti, mais devant la Maison-Blanche. C'est-à-dire qu'en quelques minutes, là, Xavier l'a dit, c'était il y a 40 minutes qu'on a su, le temps que tout le monde se mette d'accord et vienne, là, il y a au moins déjà les 300 personnes qui sont devant la Maison-Blanche. Vous l'entendez, les sonos sont sortis, tout le monde danse. Je vous cache pas que bah, il y a des petits malins qui sont venus avec des bouteilles de champagne à vendre, les deux petites bouteilles, là, de $30 les deux bouteilles. Voilà, on reste aux États-Unis, hein, ils font plaisir. Et bah, les jeunes se passent les bouteilles de bouche en bouche. Alors, c'est pas très Covid, tout ça. Mais on oublie, les gens tombent les masques, il y en a qui les gardent. Mais c'est vraiment la fête. Là, il est midi seulement. Il y a un soleil de plomb qui tape sur Washington.
Oui.
L'ambiance est en train de monter doucement. On va attendre, à mon avis, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes. Les policiers ont dégagé toutes les rues autour. Donc, c'est exclusivement piéton. Il n'y a aucun risque. Il y a vraiment de la place pour que tous les gens qui ont envie de venir, qui sont autour de Washington, viennent. Et donc, la fête ne fait que commencer ici, devant la Maison-Blanche.
Ah oui, des foules qui affluent pour fêter la victoire de Biden, 46e président américain. Vous avez raison de souligner que ce n'est pas très Covid, tout ça, Mathieu Bock, parce que c'est précisément une des promesses aussi de Joe Biden.
Ce sera son premier dossier, effectivement, qui attaquera la Maison-Blanche, Wendy.
Voilà, à partir du 20 janvier prochain, lorsqu'il arrivera en fonction à la Maison-Blanche, entre le terrain et l'analyse, le débat sur Europe 1, en tout cas, sera nourri ce soir avec Corentin Célin, qui est professeur agrégé d'histoire, spécialiste des États-Unis. Merci de nous rejoindre à l'heure française. Bonsoir Corentin Célin. Vous êtes avec nous, Corentin Célin, avec nous sur Europe 1 pour réagir à cette victoire du président Joe Biden. 273 grands électeurs. Je suis honoré que vous m'ayez choisi comme président de ce beau pays. Sa colistière, Kamala Harris, entre dans l'histoire en devenant, elle, la première femme noire à accéder à la vice-présidence. Elle dit de fait ce soir, mettons-nous immédiatement au travail. Corentin Célin, vous êtes avec nous.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. C'est une victoire qui était attendue depuis 4 jours maintenant par le camp Biden. Il n'y avait, pour vous, spécialiste des États-Unis, plus vraiment de suspense ces dernières heures ?
Ce n'est pas qu'il y avait plus de suspense, mais on voyait les décomptes s'aligner dans 4 des 5 États en faveur de Biden, dans 4 des 5 États qui restaient encore à déterminer. Mm-hmm. Et donc on a vu là ce soir, il faut bien le préciser, c'est la Pennsylvanie, la grande Pennsylvanie, donc 20 grands électeurs, qui a poussé les grands réseaux télévisés à choisir, à annoncer la victoire de Joe Biden, parce qu'ils ont vu qu'en Pennsylvanie, l'avance qu'il avait était irrécupérable, selon eux, pour Donald Trump. Cependant, il faut quand même préciser quelque chose de très important. Donald Trump vient de faire publier une déclaration. Lui est au golf, mais il vient de faire publier une déclaration. Il ne reconnaît pas, pour l'instant, la victoire de Joe Biden. Et mm-hmm. il parle d'une victoire qui n'est projetée que par les médias. Alors évidemment, et on l'a très bien entendu dans les reportages et dans les sons de Xavier Yvon, c'est que le problème, c'est qu'on va avoir un président qui se retrouve maintenant face à une grande partie de la nation qui est en liesse pour une partie, et puis surtout face au consensus démocratique des médias qui théoriquement et qui d'ordinaire dit qui est le président. Et donc c'est une situation extrêmement compliquée et inédite dans laquelle se retrouve Donald Trump, mais pour l'instant il refuse de concéder cette élection, il faut le préciser.
Oui, absolument, Corentin Célin. Fabienne Lemoyle.
On va rejoindre justement Xavier Yvon aux États-Unis sur ce que vous disiez, Corentin Célin. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Parce qu'on sait que justement, précisément en ce moment, les avocats de Donald Trump prennent la parole à Philadelphie, mm-hmm. Xavier Yvon. Donc cette guérilla judiciaire, elle n'est pas terminée.
Non, elle n'est pas terminée, mais justement, on attend de voir ce que vont dire les avocats de Donald Trump, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'ils ont en magasin comme argument, en fait, pour contester l'élection. Donc, il va falloir attendre de voir ce qu'ils vont dire. Ce qu'il faut noter quand même, c'est que Donald Trump est assez seul dans sa guérilla judiciaire. Il n'a pas beaucoup de soutien, en tout cas de l'état-major républicain. C'est surtout sa famille, ses fils qu'on entend depuis 4 jours récriminer contre l'élection. Honnêtement, on va voir ce qui va se passer maintenant, hein, mais il n'y a pas écrit dans la Constitution que Donald Trump doit absolument reconnaître sa défaite pour que l'élection soit terminée. Ça, c'est une tradition. Donc, il n'y a pas besoin d'un discours de concession de Donald Trump. D'ailleurs, avant qu'on ait l'annonce, les médias américains spéculaient sur cette concession ou non. Il y avait un article très intéressant du Washington Post ce matin qui expliquait qu'autour de Donald Trump, alors, il y avait le cercle de familial qui voulait continuer le combat judiciaire, et oui. Puis il y avait les conseillers les plus proches qui commençaient à lui dire voilà, il va falloir essayer d'envisager une porte de sortie, probablement pas avec un discours de concession et de défaite, mais peut-être au moins un engagement pour que la transition se fasse de bonne manière. Et d'ailleurs, dans le Trump World, dans le monde autour de Trump, vous savez, il y a les médias pro-Trump qui sont tenus par le milliardaire Rupert Murdoch. Et dans ces médias-là, on a commencé depuis hier à préparer à la fois le président, qui est le premier auditeur et le premier téléspectateur de ces médias, et les supporters du président. Vous avez Fox News hier qui a commencé à expliquer à ses téléspectateurs qu'il fallait se préparer à la défaite. Vous avez le Wall Street Journal qui a fait un éditorial pour dire ce serait bien si Trump perd qu'il parte dignement, ce serait bien pour son héritage. Et vous avez même le New York Post qui est un tabloïd ici à New York, qui est vraiment le tabloïd un peu trash pro-Trump, qui peut aller très loin dans les insultes, et qui a fait sa une assez digne sur Joe Biden. Le titre c'était « Ready, set, Joe ». Donc prêt, partez, Joe, qui voilà. Et donc tout ça, c'est des signaux pour dire à Donald Trump et à ses partisans, je crois que c'est la fin de la partie.
Mais oui, parce que ça a beau être trash et populaire, comme vous dites, Xavier Yvon, il n'en reste pas moins que ce sont des outils d'expression dans un État démocratique. Et qu'à un moment donné, on a beau dire, quand on est président ancien, que cette élection n'est pas finie, que peuvent dire des médias qui étaient pro-Trump jusqu'à présent. Nicole Bacharan, merci de nous rejoindre. Vous qui avez écrit chez Talendier « Le monde selon Trump ». Bonsoir, Nicole.
Bonsoir.
Il n'est pas étonnant, au fond, il l'a préparé depuis plusieurs jours maintenant, que Donald Trump s'enferme dans cette stratégie. Il ne reconnaîtra pas sa défaite, en tout cas pas dans les jours qui viennent, selon vous qui avez analysé sa psychologie.
Oui, je pense qu'il va avoir beaucoup de mal à arriver jusque-là. Mais néanmoins, c'est vrai que même les médias pro-Trump les plus vigoureux ne lui disent « il va falloir partir ». Et au fond, ce qu'on peut conclure, c'est que cette élection, avec tous ces délais, toutes ces complications, elle s'est réellement bien passée. Mmh. Les gens ont beaucoup voté, les décomptes ont eu lieu, il n'y a pas de fraude. Bon, les recours judiciaires peuvent continuer, c'est légal. Mais la réalité, c'est que cette élection, elle s'est mis longtemps à être dépouillée parce que c'est très serré, mais elle s'est bien passée. Là, je vous livre juste une anecdote. Ma fille qui vit à New York m'a appelée pile au moment où ça tombait, comme on dit, et les toutes fenêtres ouvertes avec des vivas, des hurlements, des bruits de casseroles, etc. dans les rues de Manhattan, parce qu'évidemment, voilà, c'est pas Trump Country. 85% de New York a voté, enfin de l'île de Manhattan a voté pour Joe Biden.
Biden, on entendait ça,
voilà, c'est fait. Alors après, il va falloir voir comment Donald Trump, avec son refus de la défaite et son refus de la réalité, quand la réalité est contraire à ses souhaits, contraire à ses intérêts, ça fait 40 ans qu'il vit comme ça, peut-être davantage, mais en tout cas, depuis qu'il est promoteur immobilier, star de télé et star de la politique, il refuse le réel qui le contrarie. Comment il va négocier ça? Moi, j'ai envie de dire, il va être poussé dehors par les siens. Oui. On voit bien que c'est Fox News et Associated Press ont annoncé en premier la victoire de Joe Biden. Donc, il n'y aura pas de coup d'État en Amérique.
Ouais, c'est intéressant que vous le souligniez, Nicole Bacharan, avec Corentin Célin. Je reviens sur les mots de Donald Trump ce soir, qui ne reconnaît pas, en tout cas, la victoire de son adversaire Joe Biden, et qu'il accuse même de se précipiter pour, je cite, se présenter faussement en vainqueur. Il le ressouligne, l'ancien président américain, les votes légaux, si vous les comptez, je gagne facilement. Si vous comptez les votes illégaux, ils peuvent essayer de nous voler l'élection. Corentin Célin, les votes illégaux ciblent en particulier, ça c'est la stratégie de Trump depuis quelques jours aussi, les fameux votes par correspondance qui ont mis du temps à arriver, du temps à être dépouillés également, et favorables à Biden.
Oui, mais il faut en fait se replacer dans un temps un peu plus long. Ça fait en fait quasiment 9 mois maintenant que Donald Trump, avant même le scrutin, jette le doute sur cette élection, précisément parce que c'était une élection en pleine période de Covid, donc qui a amené une généralisation jamais vue du vote par correspondance. On vote depuis très longtemps par correspondance aux États-Unis, mais évidemment avec la Covid, beaucoup d'États ont généralisé ce vote par correspondance, l'ont facilité. Et on voit bien depuis 7-8 mois que Donald Trump dit cette généralisation du vote par correspondance, c'est la fraude. Le dire, il en a tout à fait le droit, hein, c'est la liberté d'opinion, simplement il faut qu'il le prouve. Et le problème est que pour l'instant, dans tous les recours judiciaires qu'il a fait, il n'a pas pu le prouver. Et c'est tout le défi qu'il a maintenant, c'est que tous ces recours judiciaires ont pour l'instant été vains. Et est-ce que il peut avoir un recours, plein de succès? C'est très douteux.
Corentin Célin, Nicole Bacharan, on va vous retrouver dans un instant. Juste le temps de vous dire qu'après une petite pause dans cette édition spéciale, nous retournons à Washington avec nos envoyés spéciaux autour de cette édition consacrée à l'élection du 46e président américain Joe Biden, élu avec 273 grands électeurs. Ce que cela changera pour les relations transatlantiques, les relations avec l'Europe, avec la Chine, avec la Russie. On en parlera aussi avec notre invité Hubert Védrine. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Édition spéciale élection américaine.
Europe One Special Edition.
18h16, il aura fallu 4 jours de suspense alors que les Français sont tellement habitués à voir le nom du président de la République s'afficher après 20h et après clôture des différents bureaux de vote. 4 jours de suspense, c'était à clé la Pennsylvanie qui a permis au 46e président américain, donc Joe Biden, de remporter cette élection. Il s'y sera repris à 3 reprises, c'est un 3 tentatives, c'est un revenant Joe Biden avec sa colistière qui se met d'ores et déjà au travail, Kamala Harris. Entre dans l'histoire, elle aussi, Fabienne Lemoyle, et sur le terrain, c'est la fête.
Effectivement, Joe Biden, pas de prise de parole pour l'instant, mais qui tweet et qui promet, comme il l'avait déjà dit d'ailleurs cette nuit, d'être le président de tous les Américains, qui se posent effectivement en rassembleur, alors que de son côté, Donald Trump, lui qui est en train de faire un golf, figurez-vous, comme nous le disait Xavier Yvon, aux États-Unis, eh bien Donald Trump réplique sur Twitter que Biden ne doit pas se précipiter pour se présenter faussement vainqueur, mais vous le dites, c'est la fête aux États-Unis, symboliquement, particulièrement devant la Maison-Blanche, à Washington, où vous vous trouvez, d'ailleurs Mathieu Bock, beaucoup de monde évidemment autour de vous, beaucoup de liesses, et que vous disent ces Américains qui célèbrent la victoire de Joe Biden, 46e président?
Bah c'est vrai qu'ils sont de plus en plus. Là, on était à 300. Là, on est passé à 400, voire 500 personnes. Chaque minute amène son flot d'habitants, de passants qui étaient là ou des gens qui sont venus spécialement pour l'occasion devant la Maison-Blanche, l'endroit le plus symbolique s'il en est. Tout à l'heure, ils chantaient, ils criaient « This is what democracy looks like ». C'est à ça que ça ressemble, la démocratie. C'était un message évidemment adressé directement à Donald Trump. Alors, ils savent très bien qu'il n'est pas là, il est au golf, mais ça les fait vraiment rire. Ils disent « Bon, bah, c'est bon, c'est fini, c'est la fin d'un règne ». Et ils sont plusieurs comme ça à chanter, à danser. J'ai croisé Mary Lane tout à l'heure. Elle avait un drapeau américain sur les épaules. Elle pleurait vraiment, elle transpirait.
Mathieu Bock, qu'on va rejoindre dans quelques
instants.
On voit
qu'il y a énormément de monde, effectivement.
Évidemment.
Évidemment,
les ondes sont un peu tourmentées. Mais nous voulions vous faire écouter, après tant d'attentes dans une Amérique à fleur de peau, l'émotion du commentateur sur CNN à 17h30. On apprenait des médias américains l'élection du 46e président Joe Biden. Écoutez ce présentateur américain.
C'est plus facile d'être un parent ce matin. C'est plus facile d'être un papa.
To tell your kids.
Plus facile de dire à ses enfants,
the truth matters.
Leur dire que la vérité, ça compte.
Matters.
Être une belle personne, ça compte.
For a whole lot of people.
Et c'est plus facile pour beaucoup de gens.
Muslim,
si tu es musulman,
country,
dans ce pays,
you don't have to worry if the
tu n'as pas à t'inquiéter que le président ne veuille pas de toi.
For no reason.
Et ça, sans raison.
Vindication for a lot of people.
C'est une revendication pour beaucoup de personnes qui ont beaucoup souffert.
You know, the I can't breathe.
Vous savez, je ne peux pas respirer. Vous savez, ce n'est pas seulement George Floyd. Il y a beaucoup de gens qui ne pouvaient pas respirer dans ce pays. Tous les jours, vous vous levez et vous voyez ces tweets. Et vous allez faire vos courses. Et les gens qui, pendant longtemps, ont eu peur de montrer leur racisme deviennent de plus en plus méchants avec vous. Et vous vous inquiétez pour vos enfants, pour votre sœur. Est-ce qu'elle peut aller faire ses courses et retourner sereinement dans sa voiture sans se faire interpeller ?
And you spend so much of your life energy.
Vous passez tellement d'énergie à essayer de gérer ça, c'est énorme pour nous de pouvoir juste avoir la paix.
Incroyable cette émotion, effectivement, en direct sur CNN, hein, quelques minutes après que la chaîne ait annoncé que Joe Biden était 46e président des États-Unis. Xavier Yvon, vous êtes avec nous en direct de New York. Resituez-nous un petit peu la scène pour qu'on comprenne pourquoi justement ce présentateur est à ce point submergé par l'émotion.
Ah, parce que déjà, ça fait 4 jours qu'on attend des nouvelles de l'élection et des résultats. Donc, évidemment, tout le monde est un peu fatigué, tendu, stressé, etc. Ce présentateur, il est très connu. Hein. C'est un Afro-Américain. Alors, c'est plus qu'un présentateur, c'est un commentateur de CNN. Donc, vous savez, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément, nous, en France. Mais il est assez partisan. Il a toujours été anti-Trump. Mais son émotion à entendre est assez extraordinaire. Et c'est parce qu'en fait, là, quand il parle, on vient d'apprendre que CNN donne Joe Biden vainqueur avec l'arrivée des voix de Philadelphie. Je voulais juste vous donner les dernières nouvelles, puisque l'agence AP, Associated Press, qui fait référence dans l'attribution des élections, vient de donner aussi le Nevada à Joe Biden. Donc, on attendait des résultats depuis 4 jours et ça tombe comme des dominos. Donc, la Pennsylvanie.
Tout va très vite, là, tout d'un coup.
Voilà, la Pennsylvanie, hein, et ses 20 grands électeurs à Joe Biden. Le Nevada et ses 6 grands électeurs à Joe Biden. Il reste encore l'Arizona, alors qu'il a été donné par AP, mais pas par d'autres médias, et la Géorgie. Tout ça ne changera rien. Hein. Joe Biden est élu 40e président des États-Unis, mais ça changera l'ampleur de sa victoire. Parce que s'il gagne encore les États qui restent, on pourra dire qu'il a une victoire très nette, en fait, puisqu'il aura gagné des États que Donald Trump avait gagnés il y a 4 ans. Et on tirera des conclusions un peu plus tard quand on aura tous les éléments. Mais la photo finish, elle a mis 4 jours à se déterminer. Mm-hmm. On vient de la voir. Mais s'il n'y avait pas eu cette histoire de vote par correspondance, qu'on a mis des heures, etc., à compter, on aurait eu une photo beaucoup plus nette le soir ou la nuit de l'élection, avec une victoire nette de Joe Biden.
Voilà, il faut rappeler, Xavier Yvon, qu'en effet, cette élection se fait dans un contexte de pandémie mondiale, d'où l'afflux de votes par correspondance qui touche la première puissance mondiale, les États-Unis. Joe Biden, honoré d'avoir été choisi comme président, dit-il, de ce beau pays. Nous sommes encore quelques secondes avec vous, Nicole Bacharan, spécialiste des États-Unis, politologue, pour que vous nous parliez de la colistière de Joe Biden, qui est une femme qui va compter, première femme noire à accéder à la vice-présidente. Il s'agit de Kamala Harris et il va vraiment falloir suivre cette personnalité.
Oui, c'est historique. C'est la première femme et c'est la première femme de couleur qui accède presque à la magistrature suprême, qui sera aux côtés de Joe Biden, qui sera donc en piste pour être la figure montante du Parti démocrate. Si jamais Joe Biden ou ne terminait pas son mandat ou ne faisait qu'un seul mandat et ne se représentait pas, elle serait la mieux placée pour lui succéder, ou en tout cas pour réussir à les prochaines élections présidentielles. Donc d'une certaine manière, pour le camp démocrate en tout cas, c'est un pas, c'est une revanche par rapport à l'échec d'Hillary Clinton, première femme qui aurait pu devenir présidente. C'est une consolation par rapport au boomerang terrible qui a suivi les deux mandats de Barack Obama.
Bien sûr.
Donc Kamala Harris, californienne, d'origine indienne, ancien procureur, sénatrice, la cinquantaine, pleine d'énergie, très charismatique. Voilà, figure centriste au Parti démocrate. Elle aura peut-être fort à faire pour unir ce Parti démocrate. Mmh. Mais en tout cas, c'est une accession historique à la vice-présidence.
Une dernière question, Nicole Bacharan. Comment il va fonctionner ce couple, justement, Joe Biden-Kamala Harris? Je dis ça parce que ce midi, on en parlait ensemble dans le journal de la mi-journée. On parlait de Joe Biden, certes rassembleur, un peu père de la nation, qui rassure, mais pas forcément avec une personnalité très charismatique, en tout cas moins que celle de Barack Obama. Est-ce que Kamala Harris, c'est celle qui va justement avoir ce tempérament que n'a peut-être pas Joe Biden?
Écoutez, je pense qu'il sera essentiel pour Joe Biden de bien montrer que c'est lui le président, c'est lui le patron, et justement sa personnalité un peu effacée, pas flamboyante, mais tranquille, solide, c'est ce qu'ont souhaité les Américains qui ont voté pour lui, et c'est peut-être ce qui pourra apaiser une partie des électeurs qui aujourd'hui ont perdu l'élection et qui ne sont pas tous vraiment des affreux, des méchants qu'il faudrait piétiner. Bien au contraire, l'électorat de Donald Trump, il avait aussi des choses à dire, et c'est Joe Biden qui est prêt à entendre cela. Donc ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'au fond Kamala Harris, ça soit une vice-présidente comme Biden lui-même l'a été pour Obama, c'est-à-dire fidèle, loyal, solide, toujours à ses côtés, mais n'essayant évidemment pas de prendre sa place. C'est comme ça qu'elle a mené la fin de la campagne.
Et voilà ce qu'elle dit, Kamala Harris. Dans cette élection, il s'agit de beaucoup plus que de Joe Biden ou de moi-même. Il s'agit de l'âme de l'Amérique, de notre détermination à nous battre pour elle. Nous avons beaucoup de travail devant nous. Mettons-nous au travail. C'était le dernier tweet de la nouvelle vice-présidente américaine. Merci Nicole Bacharan. Je renvoie à votre ouvrage chez Talendier, Le monde selon Trump. Qui est Joe Biden? Justement, nous allons apprendre à le découvrir, à le connaître. Lui qui entrera en fonction à partir du 20 janvier 2021. 47 ans de vie publique. Son portrait avec Pauline Jacquot pour Europe 1.
Joe Biden, un homme d'expérience du Parti démocrate. Il est choisi par le président des États-Unis deux fois pour ses deux mandats, 2009 et 2013. Sens du devoir, compagnon fidèle, il tisse un lien très fort avec Barack Obama et occupe pendant 8 ans une place de choix, de responsabilité aux côtés du président à la Maison-Blanche.
Joe Biden a ce que beaucoup d'autres prétendants n'ont pas. C'est un homme d'État qui veut garder l'Amérique forte. Donc laissez-moi vous présenter le prochain président, le prochain vice-président des États-Unis, Joe Biden.
Mais Joe Biden aura surtout été sénateur, sénateur du Delaware. C'est l'immense partie de sa carrière politique. Il occupera ce poste pendant 36 ans, lui, le fils d'une famille de classe moyenne, famille ouvrière de Pennsylvanie. Élu à 29 ans, il prononcera bien sûr de nombreux discours au Sénat, dont l'un très marquant contre l'apartheid en Afrique du Sud en 1986 face à l'administration Reagan.
On a choisi un camp en Afrique du Sud. C'est celui de ces gens qui sont opprimés par ce terrible régime blanc. Nous avons cette priorité et les Sud-Africains sont en majorité noirs. Ils sont réprimés et nous restons assis là, avec la même rhétorique.
Joe Biden, un homme qui peut compter sur une qualité très largement reconnue, notamment par les électeurs, c'est son empathie extraordinaire. Joe Biden a surmonté des drames dans sa vie deux fois. 1972, sa femme et sa fille meurent à quelques jours de Noël dans un accident de voiture. Pendant des années, il fait les allers-retours en train tous les jours entre Washington et le Delaware pour être auprès de ses deux fils. Et puis, en 2015, son aîné, Beau Biden, censé être l'héritier politique, décède d'un cancer du cerveau, traumatisme qui le fera d'ailleurs renoncer à se présenter à la présidentielle l'année suivante, laissant donc la voie libre à Hillary Clinton. Joe Biden, 77 ans aujourd'hui, a aussi surmonté un handicap, le bégaiement. Il en avait d'ailleurs parlé à un adolescent bègue pendant la campagne présidentielle, un moment qui avait ému l'Amérique.
Ne laisse pas les autres te réduire à ça. Tu es aussi intelligent qu'eux. Tu l'es vraiment. Quand j'ai commencé, je parlais comme ça. Ça demande beaucoup de pratique. Mais cela va changer, mon chéri. Je te promets, cela va changer.
Joe Biden s'était déjà lancé deux fois dans la course à la présidentielle, en 1988 et en 2008. À chaque fois, il avait échoué lors de la primaire démocrate. Le centriste, catholique pratiquant, fier de ses racines irlandaises, mais très ouvert sur les questions de l'avortement, de la contraception. Chacun doit pouvoir faire ses choix, selon lui. Partisan également du mariage homosexuel. Tout au long de cette campagne présidentielle, cette année, Biden a proposé des idées plus progressistes, notamment pour séduire son électorat plus jeune. Joe Biden, qui veut surtout refaire de l'Amérique le phare de la démocratie.
Joe Biden, le pari de l'Amérique anti-Trump. Je renvoie aussi au livre de Sonia Dridi, l'une de nos envoyées spéciales et correspondantes pour Europe 1 aux éditions du Rocher. On va se retrouver dans un instant avec l'élection donc du 46e président américain, Joe Biden. On l'a appris il y a une heure maintenant. Dernières informations du côté de Washington avec le Nevada qui bascule aussi en sa faveur. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Édition spéciale élection américaine.
Europe 1 Special Edition.
Joseph R. Biden Jr. is elected the 46th president of the United States.
Joe Biden, élu 46e président des États-Unis, 273 grands électeurs. Bonsoir à tous si vous nous rejoignez, 18h31 sur Europe 1 en édition spéciale jusqu'à 20h pour revenir sur ce dénouement électoral totalement fou 4 jours après l'Election Day et alors que Donald Trump s'est engagé dans son combat pour contester le résultat de l'élection. Il a fait son golf de 18 trous en Virginie au moment où l'Amérique prenait un nouveau cap et tournait une nouvelle page. Au Canada, Justin Trudeau, le premier chef d'État, premier ministre canadien, a félicité Joe Biden pour son élection. Berlin veut un nouveau départ de la relation transatlantique et de ces relations. Nous en parlerons à 19h15 sur Europe 1 avec notre invité Hubert Védrine, Fabienne Lemoyle.
Et toujours pas de prise de parole de Joe Biden, mais qui sur Twitter promet d'être le président de tous les Américains. Xavier Yvon, à New York, vous nous avez dit tout à l'heure, le Nevada qui après la Pennsylvanie a fait grossir les rangs des grands électeurs pour Joe Biden. On est à 279 si mes comptes sont justes.
C'est ça, exactement.
Exactement. À force de regarder les cartes comme vous, on ne s'en lasse pas. Beaucoup de réactions évidemment aux États-Unis.
Oui, alors vous avez cité Justin Trudeau hein, qui est juste en dehors des États-Unis, mais je voulais vous donner la réaction de Rudy Giuliani. Vous savez, c'est l'avocat, disons personnel de Donald Trump. Hein, c'est un personnage bien connu, ancien maire de New York. Il a mené la conférence de presse des avocats de Donald Trump qui était prévue à Philadelphie juste avant l'annonce. Elle était prévue à 11h30 heure de la côte est. L'annonce est arrivée à 11h24, disons. Donc ils ont commencé leur conférence de rédaction alors que dans Philadelphie, dans les rues de Philadelphie et ailleurs dans les villes démocrates, on fêtait la victoire de Joe Biden. Je vous dis. Ce qu'a dit Rudy Giuliani, il a dit évidemment, Donald Trump, ne va pas concéder. Donc, il ne va pas admettre sa défaite dans cette conférence de presse. Donc, vous voyez, on a une petite idée de l'état d'esprit de Donald Trump en ce moment. On va voir ce qu'il va faire. Il est toujours à son golf de Virginie. En attendant, il y a eu d'autres réactions, et notamment celle de Nancy Pelosi. Vous savez, c'est la patronne de la démocrate à la Chambre des représentants. Et elle a dit « Nous avons enfin quelqu'un qui unit le pays à la Maison-Blanche et qui va guérir notre nation. » Puis je voulais vous donner une petite information qui dit quelque chose sur qui est Joe Biden. Il y a 48 ans et un jour, pile aujourd'hui, Joe Biden était élu pour son tout premier mandat de sénateur. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui a une très longue carrière politique qui va accéder à la Maison-Blanche.
Et on dit d'ailleurs que ça lui servira beaucoup s'il doit effectivement gouverner avec un Sénat qui n'est pas de la même couleur que lui, vu le nombre d'années qu'il a passé dans cette enceinte. Alors vous parlez de symboles, Xavier Yvon, on va prendre la direction de la Pennsylvanie, Philadelphie, c'est le fief d'ailleurs de Joe Biden, hein. Il est né en Pennsylvanie. On retrouve sur place Théo Manval, j'imagine beaucoup, beaucoup d'ambiance parce que c'est quand même cet État qui a fait basculer les choses, Théo.
Absolument, il y a des centaines de personnes devant le centre de convention de Philadelphie. C'est là où ont été dépouillés les derniers bulletins qui ont permis à Biden de faire la différence. Et après les concerts de klaxons dans les rues, quand vous arrivez à Philadelphie, il y a donc ici des centaines, peut-être des milliers de ses partisans réunis. Vous entendez la sono derrière moi, ils sont en train de faire la fête. Ce sont eux qui ont permis de faire la bascule au-delà des 270 grands électeurs. Il y a ici finalement une foule qui est assez à l'image, j'imagine, de son électorat. Un électorat très divers, beaucoup de gens blancs, des Afro-Américains, des électeurs du sous-continent indien. Je vous décris ce que je vois devant moi. Il y a un monsieur avec un drapeau arc-en-ciel de la communauté LGBT. Je vois une jeune femme avec une kippa. Voilà, c'est un peu l'image de l'Amérique de Joe Biden, l'Amérique qu'il veut réunifier. Et ce qui est assez incroyable aussi, c'est que comme depuis plusieurs jours, ces centaines de manifestants pro-Biden qui sont en train de faire la fête maintenant, ils font toujours face à des centaines aussi de manifestants Trump qui sont, eux, tenus à l'écart de l'autre côté d'un cordon de CRS avec des grilles pour éviter des affrontements. Ce qui se passe à Philadelphie maintenant vous donne une idée de ce qui va se passer pour la suite. On est vraiment avec deux Amériques qui s'affrontent, deux Amériques qui ne se comprennent pas. Et j'étais il y a quelques instants à la conférence de presse des avocats de Donald Trump. Ils ont bien sûr dit qu'ils feraient des recours à partir de lundi. Donc la bataille n'est pas finie, même si les pro-Biden font la fête ici devant le centre de dépouillement de Philadelphie.
Et ô combien, Théo, vous êtes à Philadelphie. C'est à l'image effectivement de ce besoin de rassemblement, de réconciliation avec ce message de Joe Biden cette nuit qui se présentait alors qu'il ne voulait pas se proclamer encore président comme le grand rassembleur de ces deux Amériques, Wendy.
Absolument. Cela dit, on n'efface pas le passé. Il y a un bilan économique, on y reviendra, plutôt positif d'ailleurs. Le plein emploi est à portée de main aux États-Unis. 1,5 million d'emplois créé depuis le mois d'octobre. Peut-il malgré tout longuement s'accrocher au pouvoir Donald Trump, son mandat en tout cas s'achève selon la Constitution le 20 janvier. Vous le savez peut-être, mais on vous le répétera régulièrement, le 46e président américain s'appelle donc Joe Biden. Il aura bientôt 78 ans. On parle de cette Amérique aujourd'hui qui, pour certains, fête cette élection. Pour d'autres, eh bien, suit le président Donald Trump dans son combat judiciaire. 18h36, si vous nous rejoignez.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard. Les grandes voix.
Les grandes voix d'Europe 1, évidemment, un programme qui s'adapte à l'actualité. Il aurait été question d'autre temps de la politique sanitaire, mais on y reviendra d'une certaine manière parce que la pandémie est mondiale. Ils sont là pour commenter aussi cette élection, la manière dont les médias la relatent, dont les Français s'y intéressent. Laetitia Krupa, journaliste politique, Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, Philippe Moreau-Chevrolet, président de MCBG, conseil et spécialiste en communication. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, bienvenue. On va continuer à parler français, si vous voulez bien, parce qu'il est important de montrer que cette élection est tellement atypique, mais elle colle aussi au scrutin particulier des États-Unis, à ce fameux vote par correspondance. Je rappelais tout à l'heure que les Français, Frédéric Dabi, sont tellement habitués à connaître très rapidement le nom de leur président que ces 4 jours de suspense sont parus totalement fous ici.
Oui, alors c'est drôle que vous disiez ça, Wendy. Il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur une archive de l'IFOP de mai 74, où le second tour était très serré entre Giscard d'Estaing et Mitterrand, et il y avait des titres de journaux qui disaient « l'IFOP incapable de donner à 20h » le nom du président, et l'IFOP l'avait donné, je n'y étais pas bien sûr à l'époque, à 22h15. Donc c'est vrai que c'est ce système indirect, hein, on l'a connu par... On l'a connu par le passé, notamment en 2000 avec George Bush et Al Gore, où ça s'est joué encore plus tard. Là, nous ne sommes que le 7 novembre, ça s'était décidé. Le cas de la Floride avait été réglé, je crois, vers le 8 ou le 10 décembre. Donc, on a l'habitude de ces élections à rallonge en termes de suspense. C'est très, très américain. On a bien sûr également l'habitude de présidents élus alors qu'ils ont fait moins de voix au global que leur adversaire. C'était le cas de Donald Trump en 2016. Là, il y a eu un suspense, il y a eu des critiques très fortes sur les sondeurs américains. Force est de constater que maintenant que le film est en train de se terminer, que sans doute, ils avaient plutôt bien saisi le rapport de force électorale, sauf sur un État, la Floride.
Alors évidemment, on va changer de perspective, on va changer de profil Twitter avec ce nouveau président américain, Laetitia Krupa. Il nous avait habitués à la tweet diplomatie. Donald Trump, ce n'est pas forcément le cas de son successeur, enfin en tout cas, on l'espère en d'autres termes, Laetitia. Est-ce que médiatiquement, dans le décortiquage aussi de cette communication américaine, il y a des choses qui vous marquent particulièrement ce soir?
Il nous avait habitués, Donald Trump, à la twitto-diplomatie où il nous en avait dégoûté. C'est ce qu'on peut poser comme question au bout de 4 ans de ce Donald Trump président dans un état spectacle à son acmé. Jamais on n'a connu autant de storytelling, de fantaisie, de boursouflure de l'ego, de cette forme qui est complètement, qui efface, qui écrase. Le fond, alors là, vous savez, Wendy, on marchait sur la tête, on retrouve nos jambes. Voilà, oui. C'est juste ça. Il reste le héros de ce feuilleton. Regardez, il réussit même à faire de cette élection du Sleepy Joe quelque chose d'exceptionnel. Finalement, ce n'est pas si exceptionnel que ça. Ce n'est pas, alors, c'est qui la star? C'est la vice-présidente, hein, c'est Kamala Harris. Oui. Ce n'est pas Joe Biden. Mais c'était encore Trump qui a les rênes de ce spectacle-là. Il s'agirait peut-être pour nous...
Oui.
De redescendre, d'ouvrir les yeux, de se calmer, de redescendre de cette excitation quasi juvénile et de regarder froidement un tout petit peu l'actualité. Je pense que tout le monde y gagnerait.
Frédéric Dabi, Philippe Rochevrolet et Xavier Yvon.
Oui, je partage complètement ce que Laetitia vient de dire. Il y a quand même des premières fois. Hein. C'est le président le mieux élu en nombre de voix de l'histoire des États-Unis parce que l'histoire de ce scrutin, Wendy, c'est d'abord une participation exceptionnelle. En France, on avait tendance à se moquer de cette participation qui parfois dépassait à peine 50%. Là, 75 millions de voix pour Joe Biden, un nombre de voix très important, sans doute plus de 70 millions pour Donald Trump. C'est vrai que Donald Trump a été pour les Français un véritable repoussoir avec une cote de popularité, une enquête IFOP JDD de 2018 d'à peine 18%. Et une question qui était extrêmement, qui m'avait frappé, qui montre à quel point l'image des États-Unis s'est consubstantiellement dégradée avec la présidence Trump. Est-ce que les États-Unis sont un allié sûr pour la France? En 2015, sous Barack Obama, 78% de oui. en 2018, 39%, moins 38 points, une chute pareille, ça oui, s'était jamais vu.
Perte de confiance hallucinante. Xavier Yvon, vous qui êtes notre correspondant permanent aux États-Unis, je voudrais que vous reveniez sur cette tweet diplomatie qu'on évoquait avec Laetitia Krupa. Kamala Harris va-t-elle être celle justement qui va pouvoir embarquer une partie de l'Amérique sur une communication affichée, moderne, sur les réseaux sociaux, à l'inverse de Joe Biden?
Oui. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Hein. C'est le premier tweet de Kamala Harris, vice-président élu des États-Unis. Elle a tweeté une très courte vidéo. Je vous laisse écouter
présidente.
Le son.
We did it, on l'a Joe. Fait, on l'a fait, même. Joe. Tu vas You're devenir le prochain président des États-Unis.
Voilà, vous entendez Kamala Harris est en jogging dehors. Elle est au téléphone avec Joe Biden et elle le félicite. Elle dit on l'a fait, Joe, ça y est, tu es le président des États-Unis. Et elle l'a fait avec son grand rire caractéristique, son style. Hein, en fait, c'est vraiment le résumé de son style jeune, moderne. C'est elle qui va insuffler une nouvelle modernité à la Maison-Blanche.
Vous nous rappelez son âge, Kamala Harris?
Alors là, vous savez, j'ai pas dormi depuis 4 nuits et j'ai un trou.
Combien?
Elle a moins de 5 ans.
Je n'ai pas l'âge, mais on aura l'écart le plus fort en âge entre un président et une vice-présidente, un vice-président de l'histoire des États-Unis. On peut dire ça.
Voilà, c'est nouveau.
Je voulais juste revenir sur quelque chose qui a été dit là tout à l'heure sur le nombre de voix pour Joe Biden. Effectivement, en valeur absolue, jamais un président n'a reçu autant de voix dans une élection, plus que Barack Obama, notamment en 2008. Mais il y a plus d'Américains maintenant qu'en 2008. Donc, en pourcentage, on n'en est pas encore là. Il n'est pas encore le président le mieux élu en pourcentage de voix. Voilà, ce sera peut-être le cas à la fin, mais il fallait le dire.
Vous restez avec nous dans ce débat, Xavier Yvon. L'historien spécialiste des États-Unis, Romain Huret, va nous rejoindre dans quelques instants. Philippe Moreau-Chevrolet, là, je parle aux spécialistes en communication politique. Qu'est-ce qui vous a marqué aussi dans ce dénouement électoral, dans ces derniers jours de suspense, et puis ce soir, 18h42 sur Europe 1 ?
Alors, ce qui m'a marqué, c'est que c'était presque devenu plus pénible pour Trump à supporter que pour Biden, puisque les jeux étaient faits, puisqu'on sait que les Républicains avaient tout fait pour retarder le décompte des votes par correspondance. Les votes par correspondance étant massivement démocrates, eh bien, ceux qui étaient comptés à la fin des bulletins, c'était surtout ceux des démocrates. Donc, on sentait une force assez irrésistible pour Biden. Et ce qui me marque aussi, c'est que c'est la première femme vice-présidente des États-Unis. Elle vient de la diversité, comme on dit en France et comme on ne dit pas aux États-Unis.
Elle a 55 ans, on vient de vérifier.
Elle a 55 ans. Elle a un style très direct. Elle danse sur ses vidéos. Elle se rapproche plus d'Ocasio-Cortez que de tous les autres vice-présidents américains qu'on a connus, y compris Joe Biden.
Oui.
Et puis, elle a un monsieur vice-président, un premier monsieur, je ne sais pas comment dire, mais c'est une configuration nouvelle, donc c'est intéressant aussi. C'est symbolique à plein de niveaux. Moi, je ne serais pas aussi sévère envers Joe Biden. Pourquoi ? Parce que, d'abord, c'était le compagnon de route d'Obama. Ils ont une relation extrêmement forte. Donc, quelque part, c'est Barack Obama qui revient à la Maison-Blanche, d'une certaine façon. Et puis, il y a un tel soulagement. Franchement, dans cette période, c'est la seule bonne nouvelle qu'on ait. Pour les Américains, ils ont peur. Il fallait lire les articles de New Yorker. Ils parlaient de fin de la démocratie si Trump reconquérait le pouvoir. On pensait qu'il allait instaurer un fascisme et c'était tout à fait envisageable. Et donc, il y a plus qu'un soulagement pour les Américains parce qu'ils se sont débarrassés de Donald Trump. Ils ont sauvé leur démocratie et c'est un sursaut démocratique incroyable. Les chaînes de télévision qui censurent le chef de l'État pour ne pas qu'ils puissent créer un semblant de guerre civile, les réseaux sociaux qui font de même, la population qui va voter en masse, c'est une mobilisation historique pour élire Biden, ça montre qu'une démocratie sait se défendre.
Oui, mais alors il y a peut-être les espoirs, l'utopie parfois aussi, et puis la vérité, Frédéric Dabi, on ne cesse pas une politique du jour au lendemain. Probablement sur la politique étrangère, on sera dans l'ère du Trumpisme, et j'imagine surtout vis-à-vis de la Chine, on en reparlera avec Hubert Védrine par exemple.
Oui, on parle souvent de rupture, on est parfois déçu. La rupture symbolique la plus forte, hein, ça a été dit par Joe Biden, c'est qu'il va réintégrer l'accord de Paris dont on va fêter le cinquième anniversaire, Wendy, dans quelques semaines. Moi, je serais moins optimiste que Philippe. Le sursaut démocratique, je ne le vois pas. J'ai plutôt vu un sursaut de mobilisation du côté du camp Trump, parce que Trump a fait un très bon score. Trump a réussi à élargir sa base. Cette élection, c'est quand même un coup de pied au derrière, pardon de ce terme, à tous les racialistes, indigénistes qui ont tendance à ramener les femmes, les jeunes à un vote donné. Toutes les femmes devaient voter démocrate, ça n'a pas été le cas. Toutes les minorités auraient dû voter démocrate. On a vu que la victoire de Trump en Floride, c'est lié au vote hispanique. Donc tout cela, ça montre une fois de plus que le vote, c'est plurifactoriel et ça ne doit pas être amené à un genre, à une génération ou à une couleur de peau. Remobilisation, certes, et il faut dire aussi, je fais le parallèle avec la victoire de François Hollande en 2012, vote par défaut, surtout pas, c'est un président très bien élu, mais quand même, le vote Biden a été souvent instrumentalisé pour sortir Donald Trump.
Merci Frédéric Dabi, Laetitia Krupa, Philippe Moreau-Chevrolet, qu'on retrouve dans un instant. Alors qu'en France, le Parlement vient d'adopter la prolongation de l'état d'urgence sanitaire après un dernier vote des députés. Et on parlera évidemment de ce panorama sanitaire, d'abord qui a vraiment marqué cette élection avec le sursaut de vote par correspondance. Et puis la promesse, une des premières promesses de Joe Biden, c'est de lutter au maximum contre l'accélération épidémique. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard. Les grandes voix.
Les grandes voix d'Europe 1 au soir d'un jour historique pour les États-Unis. Leur 46e président vient d'être élu. Il s'agit de Joe Biden qui aura bientôt 78 ans. Sa vice-présidente Kamala Harris l'a dit dans une vidéo, nous l'avons fait, mettons-nous au travail pour réconcilier l'Amérique. 273 grands électeurs, même si Frédéric le rappelait, Trump aussi a élargi son assise électorale. Laetitia Krupa est avec nous, Philippe Moreau-Chevrolet. On va rejoindre Xavier Yvon dans un instant, Laetitia.
C'est exactement l'enjeu pour Biden et pour elle, elle a bien compris, c'est rassembler cette Amérique. Parce que vous avez raison Frédéric, il y a quand même des millions d'Américains, on ne va pas dire la moitié, mais enfin pour grossir le trait, qui ont voté Trump. Et cette Amérique qui en 2016 nous a tous sidérés parce qu'elle était passée sous tous les radars traditionnels, elle continue aujourd'hui de nous échapper. C'est-à-dire à partir de quand on va réussir à identifier, à faire carrément peut-être une cartographie sociale, je ne sais pas comment on peut, de CSP, de catégories socio-professionnelles, pour définir cette Amérique en colère qui vote Trump. Il est vraiment urgent pour les hommes politiques, quels qu'ils soient, hein, parce que chez nous aussi, on va être concernés par cette vague populiste, d'intégrer et d'inclure dans la vie politique tous ces électeurs.
Nous rejoignons Xavier Yvon à Washington avec les toutes dernières informations, Xavier.
Oui, à New York. Alors,
on voyage.
Je voulais apporter quelques précisions, me rattraper. Donc, Kamala Harris, elle a 56 ans, pas 55, parce qu'elle est née le 20 octobre. Donc, j'aurais dû m'en souvenir, mais c'est vrai qu'elle a fêté son anniversaire il y a
vous
pas très longtemps, juste avant l'élection.
Après 4 jours de spécial.
Parce qu'ici, avec le décalage horaire, la matinale notamment, c'est la nuit.
Voilà.
Son mari, Douglas M. Hoff, sera donc, il faut trouver le qualificatif, sera donc le premier second gentleman.
Très voilà. Bien.
Autre information, Joe Biden va prendre la parole à 8h du soir, c'est-à-dire 2h du matin pour vous. C'est la même horaire qu'hier, ce sera au même endroit, au centre de convention de Wilmington, sa petite ville du Delaware où il habite depuis quasiment 70 ans. Et puis, je voulais rebondir sur les propos qu'on vient d'entendre sur tous ces électeurs qui ont voté pour Donald Trump. Hein. Ils sont quand même 70 millions de personnes. Là, il y a la fête dans les rues des villes démocrates, dans ma rue ici à New York, on voit les images à Philadelphie, à Washington, Mathieu Bock vous le racontait. Mais je vous parlais beaucoup de ma rue, mais j'ai discuté avec mon voisin il y a 2 jours, qui m'avait dit, moi, je ne pourrais pas me réjouir. Il est évidemment démocrate, il n'en peut plus d'avoir Donald Trump comme président, mais il disait, je ne peux pas me réjouir parce qu'il y a 70 millions de mes concitoyens que je ne comprends pas.
Oui.
Je ne comprends pas comment ils ont pu voter pour Donald Trump 4 ans après. Il disait, il y a 4 ans, des gens qui ont perdu leur travail, dont l'usine a déménagé, qui sont désespérés, qui pensent qu'aucun homme politique ne s'occupe d'eux, je comprends qu'ils puissent voter pour Donald Trump et qu'ils tentent quelque chose. Mais 4 ans après, avec le bilan de Donald Trump, notamment avec la pandémie, il dit, je ne comprends pas comment on peut revoter pour ce président. Et il m'a dit quelque chose de très très fort. Ici, on est à New York. Le 11 septembre, tout le pays s'est uni derrière New York. Il m'a dit, je pense que s'il y a à nouveau un 11 septembre à New York aujourd'hui, la moitié du pays nous dira d'aller nous faire foutre.
Ouais. Mais j'imagine que c'est aussi une réalité que vous soulignez. Bonsoir Philippe Douste-Blazy.
Bonsoir.
Merci de nous rejoindre, ancien ministre des Affaires étrangères et secrétaire général adjoint des Nations Unies. Votre réaction après ce suspense et donc cette affirmation, l'élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis.
Bah, d'abord et avant tout, souhaiter bonne chance au nouveau président. Qui va avoir évidemment fort à faire parce que On voit d'ailleurs depuis 3 jours qu'il multiplie les discours réconciliateurs. Il y a, vous l'avez très bien dit, il y a un instant, 70 millions de personnes qui ont voté pour Trump. Et donc, Trump a fini par faire mentir tous les sondages, faire mentir aussi les différentes personnes qui étaient les grands observateurs de la vie politique américaine. Et il y a un phénomène assez difficile et très dur pour l'Occident, c'est que l'Asie prenant joue un rôle de plus en plus important. Bien évidemment, nous, en Occident, on a des classes moyennes et des classes inférieures socialement qui souffrent énormément. Et il faut reconnaître que Trump, avant qu'il y ait la Covid, a trouvé des solutions économiques en augmentant les salaires et en créant des emplois. Et ne pas voir ça, et moi je ne suis pas parti de Trumpiste évidemment, mais je crois qu'il est extrêmement important de comprendre qu'il y a un respect à avoir. Alors la difficulté qu'aura Biden maintenant, c'est que d'abord il a un Sénat qui est républicain, une Chambre des représentants très amoulie, on va dire. Et donc, je ne me fais pas de soucis sur la bagarre judiciaire et juridique parce qu'elle est culturelle là-bas et ça va finir par s'arranger parce que c'est des grandes institutions, une grande démocratie. Par contre, là où je me fais beaucoup plus de soucis, c'est sur justement la possibilité de réconciliation parce que le parti républicain que j'ai connu quand je vivais là-bas et que j'étais secrétaire général adjoint des Nations Unies était un parti républicain tout à fait différent. C'est un parti républicain conservateur, certes, plutôt pro-business, mais pas du tout anti-immigration. Et donc, Trump a complètement changé. Donc, vous savez que les présidents américains, Bill Clinton en a été le symbole, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils travaillent avec l'opposition. Et il ne peut pas y avoir de décret, il ne peut pas y avoir de loi s'il n'y a pas un accord.
Oui.
Et là, il va falloir en effet que le Parti républicain se modifie, parce que là, aujourd'hui, je ne vois pas comment ils peuvent travailler avec les démocrates.
Voilà sur le terreau démocratique, économique. Philippe d'Ousteblasi, est-ce que vous croyez en un New Deal, à une relation transatlantique d'un nouveau genre, d'un nouveau niveau demain, grâce et avec Joe Biden et son équipe?
Alors moi, j'aurais tendance à mettre en garde tous les pays européens qui se réjouissent tous les uns après les autres, et je me réjouis évidemment moi aussi, mais attention, les Américains ne veulent pas d'une Union européenne politique, ne veulent pas qu'il y ait une défense européenne, ne veulent pas qu'il y ait une politique étrangère. C'était vrai même sous Obama, c'était vrai même sous Clinton, et j'ai eu souvent l'occasion d'en parler avec lui. Ils ne le veulent pas. Donc je crois qu'il faut travailler dès maintenant avec les Allemands, parce que pour les Américains, le pays qui compte quand même, c'est avant tout l'Allemagne. Et aussi la France, bien sûr. Donc, le pilier franco-allemand doit déjà faire des propositions très rapidement à la diplomatie américaine.
Merci beaucoup pour cette analyse, Philippe d'Ousteblasi, au cœur de cette édition spéciale sur Europe 1. Merci infiniment, monsieur l'ancien Premier ministre des Affaires étrangères. Philippe Moreau-Chevrolier, vous voulez réagir peut-être à cette nouvelle donne transatlantique que vient de nuancer vraiment Philippe d'Ousteblasi?
Oui, alors il faut nuancer parce qu'effectivement, les républicains vont continuer à être républicains et les États-Unis vont continuer à être impérialistes et très certainement plus tournés vers eux-mêmes que vers autre chose. Mais on avait quand même avec Donald Trump un facteur de déstabilisation permanente de la scène internationale, avec absolument aucun contrôle de ce qu'il pouvait dire et finalement plus aucune responsabilité de ses écrits qui se succédaient et s'annulaient les uns après les autres. C'est quand même bien qu'on retrouve un peu de calme et de stabilité. On va peut-être pouvoir reconstruire une scène internationale digne de ce nom. On va peut-être quand même pouvoir reprendre le chemin d'une diplomatie. J'entends bien tout ce qu'on dit. Mais c'est quand même une très bonne nouvelle. Je sais qu'en France, on est dans une atmosphère très, très dépressive, mais c'est bien d'apprécier quand même les bonnes nouvelles. Et puis, il y a quand même quelque chose, c'est que les électeurs de Trump, c'est vrai, ils se sont solidifiés, radicalisés. Trump a pris le Parti républicain. Pour moi, c'était la plus grosse surprise. C'est que Trump arrive à domestiquer le Parti républicain et à le mettre à son service. Il a changé, si on veut, mais c'est surtout la poussée des électeurs. C'est surtout la volonté des électeurs qu'on s'occupe d'eux, qu'on s'occupe de leur situation économique et qu'on s'en occupe maintenant, qui a été le facteur le plus important de sa présidence. Et il y a des gens en France qui prennent ce créneau-là, ce discours-là. On voit Macron parler de relocalisation de l'économie. On voit Montebourg monter très fortement là-dessus. Donc il y a peut-être un moyen de s'approprier démocratiquement et intelligemment c'est cette demande sociale et de ne pas l'ignorer. Et c'est, à mon avis, la meilleure route à suivre. Il n'y a pas de fatalité à ce que l'expression populaire se retrouve chez un Donald Trump.
D'accord.
C'est parce qu'il y avait un vide que Donald Trump a pu faire ça.
Très rapidement, Frédéric Dabil et Tia Coppa.
Oui, moi, ce qui me frappe, c'est à quel point cette crise de la Covid a été la catastrophe pour Trump. Puisque les Américains, dans la motivation de vote, sont extrêmement business. Et j'avais été frappé par un sondage il y a quelques temps sur est-ce que, depuis ces quatre dernières années, votre situation économique s'est améliorée. Il y avait pour Trump le meilleur score pour un président depuis extrêmement longtemps. Il s'est fracassé sur sa gestion de la Covid.
Moi, c'est juste une remarque sur le populisme. En fait, on avait eu l'Italie comme antichambre, en voisin immédiat avec le mouvement 5 étoiles. Et là, on a eu Trump. Et c'est vrai que les États-Unis restent pour nous le modèle ultime de la démocratie, du monde occidental. Et on voit que même avec un populiste boursouflé, démesuré, dont on a quand même questionné pendant 4 ans finalement l'état mental, les institutions sont suffisamment fortes pour que le monde ne bascule pas dans la guerre mondiale. Voilà, c'est tout. C'est juste une réflexion qu'il va falloir qu'on mène parce que la vague populiste, encore une fois, est à nos portes.
Merci beaucoup. Vous restez un petit peu avec nous encore, Laetitia Krupa, Frédéric Dabil. Merci. Philippe Moreau, Chevrolet, Jean-Éric Brana nous rejoint, spécialiste des États-Unis, ainsi qu'Hubert Védrine dans cette édition spéciale américaine. Europe 1, il est 19h à Paris et à New York. 6 heures de moins. On l'a fait, Joe. Tu vas devenir le prochain président des États-Unis. Après 4 jours de suspense, le rire et le verdict des urnes est tombé. C'était Kamala Harris, la nouvelle vice-présidente américaine que vous entendiez, annonce sur son compte Twitter et annonce de plusieurs médias américains à 17h30 sur l'élection emportée ce soir par Joe Biden, qui devient donc, Sophie Tussaud, le 46e président des États-Unis.
Oui, selon les chaînes CNN, NBC et CBS, le candidat démocrate âgé de 74 ans a franchi le seuil de 270 grands électeurs après avoir remporté l'État-clé de Pennsylvanie, Xavier Yvon. Normalement, on devrait avoir Xavier Yvon, notre correspondant aux États-Unis.
Ça fait 4 jours qu'on attend le résultat, mais le pauvre Xavier était juste allé boire un petit verre d'eau. Mathieu Bock, en tout cas, est avec nous
Qui est devant la... Oui, Mathieu Bock, vous êtes à la Maison-Blanche pour Europe 1. Et depuis une heure, la foule n'a cessé de grossir. Depuis l'annonce des résultats.
Oui, c'est ça. Exactement, vous savez, depuis plusieurs jours, il y avait toujours quelques dizaines de personnes qui se relayaient. Et là, on est à 400, 500 personnes. Ça arrive en permanence. Des gens qui sortent des bouches de métro, des gens qui descendent des bureaux, qui arrivent des bureaux, qui sont à proximité, parce qu'on est vraiment dans le centre-ville de Washington. On est quasiment collé à la Maison-Blanche. Et vous savez, il y a des barrières anti-émeutes qui ont repoussé tous ces manifestants à plusieurs centaines de mètres. Et là, il y a beaucoup de jeunes qui sont là avec des t-shirts Biden Harris et qui font la fête. Je me suis un peu écarté, on entend moins la musique que tout à l'heure parce que c'est impossible de téléphoner au milieu de cette foule. Tout le monde envoie des vidéos, tout le monde envoie des photos, tout le monde veut partager ce moment. Et beaucoup de gens dansent, font la fête sur la musique. Et j'ai croisé tout à l'heure Maëlyn qui, elle, était en pleurs, qui était vraiment en train de transpirer, en train de danser avec un drapeau américain noué autour des épaules. Elle était littéralement en pleurs, elle ne croyait pas le moment qu'elle était en train de vivre. Et je vous propose de l'écouter.
This is so crazy.
C'est tellement dingue. Je n'arrive pas à y croire. Je suis tellement heureuse. Une partie du pays n'était pas convaincue. On a parlé et on a gagné. J'ai volé pendant 4 heures pour venir ici aujourd'hui. J'étais là mardi. Je suis un peu déçue car je ne pensais pas que ce serait si serré. Je pensais que ce serait une formalité en faveur de Biden. Ça montre qu'on a encore du travail dans ce pays si divisé. Mais je suis tellement heureuse.
I'm just so happy.
Voilà, alors actuellement la foule s'étend un peu sur les places qui sont autour de la Maison-Blanche. La foule essaie de prendre un peu ses aises dans ces rues autour de la Maison-Blanche. Il y a des scènes avec des groupes de musique qui commencent à jouer. La fête commence vraiment à s'étendre dans toute la ville. Et puis il y a beaucoup, c'est très drôle pour nous les Français, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent avec des bouteilles de champagne et qui les ouvrent et qui les sabrent et qui, un peu comme les prix de Formule 1, qui s'aspergent avec du champagne. Ils ne le boivent pas forcément dans les règles de l'art. Ils en mettent un peu partout, mais c'est la fête. C'est le symbole que voilà, ces 4 années de Trump pour eux sont finies. Et qu'on va passer à autre chose. Et beaucoup sont effectivement contents que Trump parte, mais aussi que Biden et Kamala Harris arrive. Donc c'est vraiment un switch dans la plupart de la tête des personnes qui sont là ici devant la Maison Blanche.
Merci Mathieu Bock à Washington pour Europa. On va prendre la direction de New York à présent. New York où se trouve Xavier Yvon, le correspondant d'Europa. Xavier, ce sont donc les chaînes CNN, NBC et CBS qui ont annoncé que Joe Biden avait franchi le seuil de 270 grands électeurs.
Oui, on était reparti pour une journée un peu sans fin de décompte de cartes électorales, de calculatrices. Et puis, il était 11h24, heure de la côte Est, c'est-à-dire 17h24, heure française. Des nouveaux chiffres sont arrivés de Philadelphie, la grande ville de Pennsylvanie. Des bulletins par correspondance, enfin dépouillés, ultra majoritairement démocrates, et qui ont fait passer l'avance de Joe Biden dans cet état de Pennsylvanie à plus de 30 000 voix d'écart. Sur CNN, John King, le roi des cartes électorales, faisait ses comptes sur son tableau magique quand il a été interrompu par cette annonce.
Xavier.
Alors l'annonce que l'on n'entend pas, c'était le présentateur star de CNN, Walt Blitzer, qui expliquait très solennellement qu'après 4 jours historiques tendus, CNN était en mesure d'annoncer que Joseph Robinette Biden Jr. était élu 46e président des États-Unis. On a entendu ensuite la voix dans les émotions, dans les voix des présentateurs de CNN. NBC, vous l'avez dit, a enchaîné. Et évidemment, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre partout dans le pays, notamment dans les villes ultra-démocrates de la côte Est, comme ici à New York, chez moi. Je vais vous faire écouter, si on a le son, la réaction dans la rue à Brooklyn quelques minutes après l'annonce de la victoire de Joe Biden.
Et je crois que nous n'avons toujours pas ce son, Xavier Yvon, mais on va y arriver parce que le décompte a basculé au terme de 4 jours de suspense, oui. Xavier.
Oui, en fait, c'est la Pennsylvanie qui a tout fait basculer. D'ailleurs, on entendait, je vous parlais de mes voisins, j'avais un voisin qui jouait la chanson de Elton John, Philadelphia Freedom, la liberté par Philadelphie, puisque c'est Philadelphie, la vieille ville américaine, qui a fait basculer cette élection dans l'élection de Joe Biden. D'ailleurs, il y a aussi la fête là-bas en ce moment à Philadelphie, devant le Convention Center. C'est la fin, grâce à la Pennsylvanie, de 4 années tumultueuses. Donald Trump ne fera pas un second mandat. C'est très rare pour un président sortant de ne pas être réélu. Et ironie de l'histoire, au moment de cette annonce, Donald Trump, lui, était en train de jouer au golf dans une de ses propriétés en Virginie, à côté de Washington. C'est sa première sortie de la Maison-Blanche depuis 4 jours. L'histoire retiendra donc ce moment où le 45e président golfait alors que les médias américains annonçaient sa défaite. Donald Trump a tout de suite envoyé un communiqué pour dire que Joe Biden et les médias se précipitaient faussement. Il ne va pas concéder, a même dit son avocat Rudy Giuliani. Joe Biden, lui, est désormais désigné officiellement par tout le monde, les médias, comme le président élu. C'est la tradition. Et son message de premier président élu est arrivé sur Twitter. Il a dit « Je suis honoré, je serai président pour tous les Américains. Il va bientôt avoir 78 ans, dans 13 jours exactement. Il sera le plus vieux président jamais élu. » Joe Biden, je vous le rappelle, est sorti de sa semi-retraite il y a 1 an et demi pour, comme il l'a dit tout au long de la campagne, sauver l'âme de la nation face à Trump. Joe Biden s'apprête à retrouver la Maison-Blanche où il a servi 8 années comme vice-président de Barack Obama. Il ne s'était pas lancé dans la succession de Barack Obama en 2016, trop affecté par la mort de son fils aîné. On pensait que sa carrière était terminée. Vous voyez, j'en ai plus de voix depuis qu'on fait des spéciales pour attendre le décompte. On pensait donc que sa carrière était terminée. C'est un revenant qui est sur le point d'accéder au poste suprême. C'est sa 3e tentative. Joe Biden devient donc le 46e président des États-Unis.
48 ans de vie publique et politique. Barack Obama salue à l'instant cette victoire historique. Nous irons entendre avec Adrien Beck la réaction d'Emmanuel Macron dans quelques instants. Mais Jean-Éric Brana est avec nous, maître de conférence à Paris 2 et spécialiste des États-Unis. Bonsoir Jean-Éric.
Bonsoir.
Au-delà de ces résultats, de cette attente, de la liesse dans les rues de Washington, c'est un défi social. C'est une Amérique aujourd'hui que Joe Biden et son équipe ont à réconcilier, très clairement.
En réalité, c'est un triple défi. C'est un défi sanitaire, un défi économique et un défi social qui est devant Joe Biden. Souvenons-nous que quand Barack Obama a été élu, il avait lui aussi trouvé une crise économique qui n'était pas anticipée pendant la campagne. Joe Biden, lui, par contre, savait qu'elle arrivait. Donc, il va se préparer davantage. Et c'est vrai que l'appel à l'unité est nécessaire parce que ce n'est que tous ensemble, a-t-il dit à plusieurs moments, en se retroussant les manches de l'extrême gauche à l'extrême droite, tous les Américains, quels qu'ils soient, qui doivent participer pour redresser la nation qui est effectivement est très malade aujourd'hui.
Alors, il prendra ses fonctions le 20 janvier 2021. Il ne pourra donc agir concrètement qu'à partir de cette date-là, en dépit des promesses, des paroles, des formules, Jean-Éric.
Oui, mais il y a une transition auparavant. Ça, c'est inéluctable, même si Donald Trump lui mettait des bâtons dans les roues, ce qui semble se dessiner au vu des communiqués que nous avons eus ce soir. La transition, c'est un moment où il va être briefé sur la sécurité nationale, c'est un moment où il va prendre des contacts plus certains, plus forts avec les chefs d'État étrangers, dans lequel il va rencontrer beaucoup de monde, y compris de l'opposition, pour former son gouvernement. Tout cela est une période très active. Le 20 janvier, il sera donc opérationnel pour démarrer immédiatement cette nouvelle présidence qui s'annonce effectivement très difficile.
Avec ce que cela engage aussi en termes de relations internationales, relations transatlantiques, on en parlera avec Hubert Védrine, notre invité, ancien ministre des Affaires étrangères, à 19h15. Jean-Éric Brana, merci, spécialiste des États-Unis. Merci d'être intervenu sur cette spéciale sur Europe 1. On vous retrouve, Sophie Tussaud, au cœur de cette édition, avec un passage en Pennsylvanie. Nous irons à Philadelphie et l'un des fiefs de Joe Biden et les réactions d'Emmanuel Macron, de Barack Obama, de Boris Johnson. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Édition spéciale élection américaine.
Europe 1 Special Edition.
Nous sommes ensemble jusqu'à 20h et on suit cette page qui se tourne, la fin du mandat de Donald Trump. Il aura accompli ses 4 ans sans être réélu et l'élection de Joe Biden avec 273 grands électeurs. Sophie Tussaud, il devient donc le 46e président des États-Unis.
Oui, après 4 jours de suspense, le verdict des urnes est tombé et les démocrates des États-Unis sont actuellement en fête. On prend à présent la direction de Philadelphie en Pennsylvanie, où vous vous trouvez, Théo Manval. La Pennsylvanie, c'est l'État clé qui a donné la victoire à Joe Biden, un État où les deux camps sont représentés.
Effectivement, il faut voir ce qui se passe ici devant le centre de dépouillement de Philadelphie, le centre qui a donné les derniers bulletins qui ont permis à Joe Biden de faire la différence. Les deux camps s'affrontent et il faut les voir, ces partisans de Donald Trump, bras croisés, visage fermé, les yeux cachés derrière leurs lunettes de soleil, vraiment pas à la fête, alors que de l'autre côté d'un cordon de CRS qui les sépare, qui sépare les deux camps, les partisans de Joe Biden, vous les entendez derrière, font la fête, les narguent un petit peu. Ces partisans du président Trump, ils refusent à ce stade de concéder la défaite, refusent de reconnaître Joe Biden comme le président élu. À l'image de la réaction de Donald Trump, écoutez ce que m'a répondu Karen quand je lui ai demandé si elle pensait que Joe Biden était le nouveau président des États-Unis.
Absolument pas. Et s'il réussit à accéder à la Maison Blanche, eh bien je ferai tout pour qu'il en sorte le plus vite possible. Il va falloir qu'il recompte les bulletins. C'est impossible qu'en une nuit, on ait une cargaison de 23 000 bulletins qui arrivent et qu'ils soient tous sur Biden et aucun sur Trump. C'est ce qui arrive dans les républiques bananières. Le président Trump devrait enclencher toutes les batailles judiciaires possibles et faire faire tous les procès qu'il peut.
Alors j'étais il y a quelques minutes à la conférence de presse qu'ont donné ses avocats justement à Philadelphie. Il a essayé aussi, Donald Trump, d'occuper le terrain jusqu'ici. Ils ont promis qu'il lancerait tous les procès possibles d'ici lundi. Et vous le voyez, c'est une Amérique très fracturée dont hérite aussi Joe Biden. Et ça va être l'un de ses challenges, l'un de ses défis, pour parler en bon français, de réussir à ramener ces deux camps tous ensemble, ces deux camps qu'on voit vraiment ici devant le centre de dépouillement de Philadelphie, encore séparés par un cordon de policiers.
Merci Théo Manval en Pennsylvanie, à Philadelphie pour Europe 1. Beaucoup de réactions à l'international après l'annonce de la victoire de Joe Biden. Le Premier ministre canadien a félicité Joe Biden et s'est dit impatient de travailler avec lui. Le Premier ministre britannique Boris Johnson l'a également félicité. Il a félicité aussi Kamala Harris, la nouvelle vice-présidente. Adrien Beck, en France, quelles sont les réactions politiques ?
Alors, il est intéressant de voir ce soir les réactions globalement très enthousiastes de la classe politique. Ça va vraiment de la gauche à la droite, à l'exception, bien sûr, du Rassemblement national qui avait ouvertement soutenu Donald Trump. Donc, des réactions vraiment très enthousiastes qui contrasteraient presque avec le tweet que vient d'envoyer il y a quelques minutes Emmanuel Macron. Les Américains ont désigné leur président. Félicitations Joe Biden et Kamala Harris. Nous avons beaucoup à faire pour relever les défis d'aujourd'hui. Agissons ensemble. en clair, on le voit, ce tweet est très sobre. Et c'est vrai que je peux vous dire qu'à l'Élysée, ce soir, on ne débouche pas le champagne. On n'aurait pas non plus débouché le champagne, d'ailleurs, si Donald Trump avait été réélu. C'est vrai que c'est la fin d'une ère un peu surréaliste. C'est le départ d'un président outrancier. Il y a des choses qui vont changer avec Joe Biden sur le climat. Joe Biden qui a annoncé le retour des États-Unis dans l'accord de Paris. On verra aussi ce que ça donnera sur l'OTAN. Mais Emmanuel Macron le sait, tout ne va pas changer. On le dit beaucoup en ce moment dans son entourage. D'abord parce que Trump ou pas, les États-Unis continueront à défendre leurs intérêts. Et puis, on craint aussi au sein de la diplomatie française que certains pays européens veuillent se rapprocher des États-Unis, alors que grâce au vide, en quelque sorte, laissé par Donald Trump, eh bien, Emmanuel Macron avait pu mener son projet de souveraineté européenne et faire un petit peu avancer l'Europe. Eh bien là, ce soir, on le voit d'ailleurs avec la réaction allemande qui demande un nouveau départ dans la relation avec Washington. Eh bien, Emmanuel Macron, pour lui, c'est une bonne nouvelle, oui, au moins sur la forme, mais on verra sur la diplomatie ce que ça va donner.
Merci Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Joe Biden qui devient donc 46e président des États-Unis et qui prêtera serment le 20 janvier prochain.
Et vous nous rejoignez pour les toutes dernières informations au cœur de cette édition spéciale Sophie Tussaud sur Europe 1. Alors que d'immenses foules célèbrent la victoire de Joe Biden de Washington à Philadelphie, c'est intéressant aussi, vous qui êtes toujours avec nous, Laetitia Krupa, journaliste politique, Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, de voir comment les Français vont percevoir cette nouvelle donne américaine. Une enquête d'un autre institut mais soulignait il y a quelques mois qu'une grande majorité d'Européens auraient très clairement choisi Joe Biden pour cette élection. Est-il pour autant plus européen et plus europhile que Donald Trump? Ça, c'est peut-être une autre histoire.
C'est une vraie tradition que la France, en particulier l'Europe en général, soit toujours pro-démocrate. On se souvient de l'arrivée calamiteuse de Ronald Reagan en termes d'accueil dans les opinions publiques. Il avait réussi très vite, à la différence de Donald Trump, à inverser la tendance au début des années 80, notamment du fait de son antagonisme avec l'Empire du Mal, l'Union soviétique. Ce qui est très intéressant, c'est la partition que va devoir jouer le Rassemblement national. En 2016, au moment de l'élection de Donald Trump, Marine Le Pen avait dit « Brexit, Donald Trump, notre heure est venue ». Là, de ce point de vue-là, la mécanique est, si je puis dire, cassée. Mais je partage le point de vue de l'entourage d'Emmanuel Macron de ce point de vue-là. Ne projetons pas sur une nouvelle administration démocrate l'idée d'une véritable rupture dans les relations américaines et européennes. America First sera toujours le primat.
Oui, on va y revenir avec Hubert Védrine sur ce sujet, en particulier Laetitia Krupa.
Et n'allons pas trop vite non plus en besogne de pronostics en se disant que Trump étant sorti, le RN n'a plus de beaux jours devant lui.
Bien sûr.
Ce serait une erreur fondamentale parce que Trump était le symptôme d'une Amérique malade qui reste malade. Trump n'a pas été la cause de cette Amérique-là. Donc il faudra voir dans les années à venir comment cette Amérique va se soigner de l'intérieur et évidemment regarder cela depuis chez nous et regarder aussi notre situation. Mais moi, juste que je remarque d'un point de vue un tout petit peu, c'est un clin d'œil, hein. Mais quand on voit Emmanuel Macron finalement saluer la victoire de Biden sur Twitter, je me dis que quand même, ce Donald Trump aura imposé un réseau social comme vecteur principal de sa communication politique et il aura révolutionné la communication politique. Avec cet outil, avec les outils, on peut révolutionner tout un secteur et s'adresser au peuple directement via un réseau. Ça reste pour l'instant une première et on verra à l'avenir comment les dirigeants, eux, communiqueront et adapteront ou pas en fonction du modèle Trump.
Oui, vous avez raison de le souligner, puisque la nouvelle vice-présidente Kamala Harris, il y a 55 minutes au moment où ils ont appris cette victoire, s'est fait filmer en survêtement, en tenue du dimanche, on va dire chez nous, en disant « We did it, voilà, nous l'avons fait, nous avons accompli, à nous maintenant de réconcilier l'Amérique ». Merci Laetitia Krupa, merci Frédéric Dabi. Dans une minute, justement, l'analyse d'un expert en géostratégie, ancien ministre des Affaires étrangères. Que peut-on attendre des relations avec Washington? Hubert Védrine nous rejoint sur Europe 1.
Europe 1. Édition spéciale élection américaine.
Europe 1 Special Edition.
Après 4 jours de suspense, si vous nous rejoignez sur Europe 1, 19h22, le verdict des urnes est tombé. Le Joe Biden remporte l'élection américaine et devient donc le 46e président. Ce sont les chaînes CNN, NBC, CBS qui l'ont annoncé à 17h30, heure française. Et l'on revient sur à la fois cette folle attente des derniers 4 jours et surtout sur l'avenir que nous pourrons tisser avec cette nouvelle présidence. Avec nous, Hubert Védrine, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous rejoindre avec une géostratégie qui évidemment vous passionne en qualité d'ancien ministre des Affaires étrangères. On a beaucoup parlé depuis 18 heures de ce que pourrait changer la présidence Biden entre l'Europe, la Chine, la Russie, l'Iran dans ces relations croisées. Y aura-t-il forcément d'abord plus d'Europe avec le nouveau président américain, Hubert Védrine ?
Non. Les démocrates ne sont pas du tout favorables à l'autonomie stratégique européenne ni à la souveraineté européenne. Il suffit de se rappeler ce qu'étaient les États-Unis avant Trump. Il ne faut pas faire démarrer tous les problèmes avec Trump. Alors Trump était très choquant, personnellement, mais le trumpisme représente la moitié de l'Amérique. Le Sénat va être plutôt contrôlé par les Républicains et les démocrates ne seront pas faciles. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se réjouir de décisions annoncées comme le retour de l'Amérique dans les accords de Paris sur le climat, c'est très bien, même s'il faut aller plus loin et s'intéresser également à la biodiversité. Même chose pour le déblocage, sans doute, de l'Organisation mondiale du commerce et de son organe de règlement des différends, ça c'est bien. Le retour des États-Unis très probable dans l'OMS, dont on a besoin pour tirer les leçons de la pandémie, se préparer à l'avenir, etc. Ça c'est bien. Mais d'un autre côté, les États-Unis... La relation, le bras de fer commercial va continuer. Regardez Boeing Airbus, regardez les GAFA qui veulent absolument pas accepter les projets européens, notamment Thierry Breton, qui sont très bons. Hein. La politique de sanctions qui est totalement choquante de la part des États-Unis, ça remonte à 20 ou 30 ans, c'est pas Trump, vous voyez. Et donc il n'y a pas de soutien par rapport à votre question une affirmation européenne. Ils vont dire on va revenir dans le système multilatéral, mais c'est pour que nos alliés nous soutiennent, vous voyez.
Oui.
Et ils feront ça plus aimablement, ça sera beaucoup plus courtois. Et sur la Chine, que je dois ajouter à cette petite liste, il est bien probable qu'ils vont continuer la même politique d'endiguement de la Chine. Bon, ça, c'est pas absurde, mais ils vont peut-être vouloir nous enrôler, vous voyez, par rapport à ça. Donc il y a un vrai défi, même si on est heureux pour des raisons éthiques, morales ou des choses comme ça. Il y a un vrai défi pour les Européens.
Oui, je voudrais qu'on revienne un peu plus longuement sur la Chine. Vous avez commencé d'expliciter bien les choses et la stratégie qui semble se profiler. Ce matin, sur notre antenne, Emmanuel Todd, l'historien, disait d'ailleurs, comme vous, la grande victoire de Trump, c'est la Chine avec laquelle il a dramatisé les relations qui ont justifié sa politique hostile, on va dire, à l'égard des Chinois pour justifier le protectionnisme. Joe Biden devrait donc
Non, c'est pas dans ce sens-là. Non, c'est pas ce que je dis, moi. C'est pas pour justifier le protectionnisme. Trump a fait voler en éclats le consensus démocrate-républicain qui existait depuis 40 ans pour qu'il y ait une sorte d'occidentalo-américano-mondialisation brutale en complicité avec la Chine. Et donc Trump a entendu les réactions de la population américaine en disant finalement ça ne profite qu'aux Chinois. Donc il a fait voler en éclats ce consensus. Et la politique d'endiguement, ce n'est pas une politique d'agression ou d'hostilité, mais la politique d'endiguement de la Chine va continuer.
Oui.
Et c'est là où les nouveaux responsables risquent de dire aux Européens, vous devez être de notre côté.
Bien sûr.
Les Européens relèvent le défi,
qu'ils
anticipent cette question, disant, voilà nos positions, il ne faut pas rater le rendez-vous avec l'administration démocrate, naturellement, mais il faut qu'on y aille, pas simplement avec un air ravi. Quoi. Bon, il faut qu'on dise, voilà nos positions, ok, on va retravailler normalement avec nos alliés américains. Mais voilà nos positions.
C'est une politique qui justifiera en tout cas le « made in America hein, » que Joe Biden a mis en avant après le discours, à dire plus caricatural peut-être, du « America first » de Trump. Mais là aussi, on semble être sur une poursuite, une continuité nationale.
Il y aura une énorme différence de ton, de style. Les Européens qui mélangent les côtés éthiques, moraux et géopolitiques seront ravis, enfin on le voit déjà, mais dans la réalité des choses, la politique américaine va quand même redevenir ce qu'elle était avant, qu'on connaît bien, même pas la distanciation d'Obama. Cela dit, ça dépend si Biden repense surtout des gens qui étaient sur la ligne Clinton ou la ligne Obama, c'est pas la même chose. Mais dans aucun cas, ce n'est automatiquement bon pour l'Europe, ça peut le devenir si... Les responsables européens, la France, l'Allemagne, je suis tout à fait d'accord avec le ton de la réaction du président au passage. Si les Européens réussissent à dire aux Américains, pas simplement « welcome, bravo, on est heureux que ce soit vous », vous voyez. Il faut dire « voilà quel est notre agenda sur les différents points que j'ai cités, sur les relations économiques et sur l'affirmation européenne ». C'est la même question. Ça fait des décennies que les Américains pensent que l'affirmation de l'Europe crée le désordre dans l'Alliance Atlantique. Il faut réussir à démontrer que non, c'est complémentaire. Donc ce débat, il disparaît pas avec la mise à l'écart de Trump, qui lui s'en fichait en fait, vous voyez. Donc c'est ambigu la situation nouvelle.
Et les défis seront multiples, Jean-Éric Branan nous le rappelait, Hubert Védrine, la pandémie évidente qui fait rage, l'économie, on pourra en dire quelques mots car le bilan de Trump est assez intéressant à décrypter, un système judiciaire inégalitaire, ça c'est ce que dit Barack Obama, une démocratie en danger, un climat en péril, et vous êtes très intéressant, Hubert Védrine.
Excusez-moi, c'est le problème des Américains,
oui,
ça.
Oui.
C'est pas forcément notre problème. Notre problème, c'est quel genre de relation on va pouvoir rétablir avec eux.
Bien sûr.
Alors, la pandémie, c'est un problème mondial, d'où l'intérêt de remettre en marche l'OMS. Mais bon,
oui, oui.
Faut pas mélanger leurs problèmes et les nôtres.
Sur un terreau de division, voilà, si je vous interroge sur le défi aussi démocratique qu'a aujourd'hui à embrasser Joe Biden et son équipe, c'est une Amérique extrêmement divisée. Certains parlent même de bord de guerre civile.
Ce sont des États déunis.
Oui.
Mais il faut voir que pour Biden, le challenge est considérable parce qu'il faut d'abord, avant de réconcilier les électeurs de Biden et de Trump, je ne sais pas s'il y arrivera, mais c'est un homme décent et honnête, ils vont essayer. Avant ça, il faut qu'il arrive à créer l'unité chez les démocrates. Or, en fait, lui, c'est un centriste démocrate, mais il n'y en a plus beaucoup de cette catégorie, sur cette ligne. Il y a une aile gauche vigoureuse qui va peser, et ça peut être bien pour eux parce que les inégalités sont devenues extravagantes aux États-Unis, mais il y a aussi des gauchistes qui sont pas du tout la même chose que l'aile gauche de Warren ou de Sanders, vous voyez. Et donc je pense qu'il y aura une bataille d'influence ou de décision au sein du Parti démocrate dans la suite, et que Biden, avant même de réconcilier les Américains tout entiers, devra régler cette question interne. Sauf s'il peut dire par rapport justement à tous ceux qui vont essayer de le tirer de l'intérieur sur une ligne qu'il ne veut pas suivre, de dire écoutez, c'est pas le moment, puisque la priorité c'est d'essayer de réconcilier les Américains en général. Donc vous voyez, ça s'annonce difficilement, puis il n'aura pas la palette du Sénat. Bon, enfin nous, je reviens à mon idée fixe, c'est qu'il faut pas que nous, Européens, il ne faut pas qu'on rate le rendez-vous avec eux.
Est-ce qu'on peut reconnaître ici le bilan économique de Donald Trump, sur lequel s'appuiera aussi
sûr,
son successeur,
oui.
Un 1,5 million de chômeurs en moins en octobre, un retour au quasi-emploi de l'avant-Covid, et ce Made in America qui restera peut-être tout de même structurant, Hubert Védrine.
Ah mais ça a toujours été, enfin disons, America first, ça a toujours été la ligne de l'Amérique.
Oui.
Après, fabriquer les choses aux États-Unis, les Américains ont abandonné ça pendant 30 ans, quand ils ont cru qu'ils pouvaient faire produire en Chine et garder le contrôle. Vous voyez ? Donc toutes les GAFA ont joué ce jeu. Hein. Bon, finalement, ça ne marche pas. Et les classes populaires et moyennes ont complètement décroché par rapport à ça. C'est ce qu'on appelle, d'un terme impropre, le populisme. Donc Biden ne serait pas élu s'il n'avait pas récupéré une grande partie de l'électorat ouvrier blanc du Middle West. Mm-hmm. Il a récupéré en disant précisément ça. On va reproduire en Amérique. Mais l'America first, ce n'est pas original. L'Amérique est toujours comme ça, hein, toujours. Même avec Clinton ou Obama ou Kennedy ou Roosevelt, tout le temps. Ça, ce n'est pas nouveau. Donc il faut que les Européens fassent la fête, c'est très sympathique dans un premier temps, et après, il faut que les responsables préparent bien le type de relation qu'on peut renouer, les points où on va enregistrer les positions démocrates et travailler dessus, et les points où on aura des revendications, des propositions qui ne seront pas automatiquement les mêmes, vous voyez ?
Alors justement,
c'est dur de dire ça un jour qui est un jour de fête pour plein de gens.
Mais
puisque vous me demandez d'anticiper sur la suite, voilà ce que je vous dis.
Voilà, mais on a envie aussi de ce discours réaliste et solide. Alors que le chef de l'OTAN salue ce soir l'élection de Joe Biden, partisan solide pour le coup de l'Alliance. La politique internationale, vous le disiez, Hubert Védrine, sera de toute façon moins éruptive, on va dire. Le style va être probablement plus participatif. Je voudrais que vous nous parliez de l'Iran, avec potentiellement la levée des sanctions mises en place par Trump contre Téhéran sur le programme nucléaire. En particulier, c'est une politique qui effraie depuis quelques semaines un certain nombre de pays arabes, Israël notamment, mais ça semble être la ligne conservée par Joe Biden, jusqu'à présent candidat et désormais président.
Alors, dans l'ensemble, on peut s'attendre à une politique qui reste une politique américaine alignée sur les nationalistes israéliens, en gros, et sur les saoudiens.
Oui.
En gros, on ne voit pas quelle force à l'œuvre aux États-Unis corrigerait cette politique qui n'était pas du tout celle du président Bush père et de Baker, par exemple. Vous voyez, il y a eu d'autres politiques. Mais aujourd'hui, je ne vois pas le changement. Donc, ils vont repartir sur la base de ce que Trump a obtenu en faisant imploser les systèmes antérieurs, c'est-à-dire une alliance, vous l'aviez cité, Israël, Arabie, Émirats Arabes Unis contre l'Iran. Bon, mais en même temps, Trump ou ses équipes ont dit plusieurs fois qu'ils allaient essayer de... Enfin, ils n'écartaient pas l'hypothèse de revenir dans l'accord sur l'Iran. Mais en même temps, l'accord sur l'Iran, que les Européens ont essayé de faire survivre, mais comme les Américains, quel que soit leur parti, utilisent sans arrêt la menace de leurs sanctions extraterritoriales, ce qui est un scandale géant, à tout point de vue, devant lesquels les Européens se sont trop couchés jusqu'à maintenant, finalement, c'est quasiment impossible de maintenir des rapports économiques normaux avec l'Iran, même quand l'Iran respecte l'accord qui avait été signé. Bon. Donc il y a une petite piste là où les équipes démocrates voudraient essayer de relancer cet accord, mais comme ils veulent en même temps ajouter des exigences qui n'étaient pas dans l'accord d'Obama, que Obama avait imposé l'accord sur le nucléaire, mais il n'avait pas intégré la question des missiles ni de la déstabilisation régionale. Oui. Donc si les démocrates, tout en prétendant vouloir ressusciter l'accord, on va dire, hein, voyez, s'ils sont trop exigeants sur d'autres points, bon, il y aura peut-être quelques contacts américano-iraniens, mais ça n'ira pas très loin. Donc c'est là où les Européens pourraient jouer un rôle, vous voyez. Parce que fondamentalement, moi je pense que l'accord d'Obama était le moins mauvais possible, même s'il faut dans l'avenir le consolider, l'élargir, parce que c'est en relançant cet accord qu'on redonnerait en Iran une chance aux, entre, avec beaucoup de guillemets, modérés, vous voyez, les réalistes. Alors que la politique du pire que Trump a suivie de façon méthodique a finalement complètement marginalisé en Iran tous les modérés réalistes et a remis au premier plan les plus durs des durs. Donc c'était une politique absurde mais délibérée, en fait, qui est celle que voulaient Netanyahou et les Saoudiens. Alors je ne sais pas si, par rapport au gigantesque défi qu'il aura à relever, dont on parlait il y a quelques minutes, hein, je ne sais pas si Biden aura le temps et la volonté de prendre ce sujet, à moins qu'il ait un secrétaire d'État remarquable qui prenne ça à bras le corps. Là, il y a un terrain pour des discussions intéressantes entre les autres signataires, les Européens et la future équipe. Mais c'est pas sûr, pas sûr.
Eh bien, on s'arrêtera en tout cas sur cette analyse à 19h34, alors qu'il prendra ses fonctions avec son équipe le 20 janvier 2021. Dans l'intervalle, évidemment, échange de dossiers et communication active. Merci beaucoup, Hubert Védrine, d'avoir éclairci les grands axes de la politique internationale qu'on peut attendre.
Merci
avec
pour votre invitation.
Équipe. Merci beaucoup. Et à tout de suite, au cœur de cette édition spéciale, nous sommes ensemble jusqu'à 20h ce soir, avec un éclairage particulier sur les accords de Paris. Est-il bon justement que les États-Unis y reviennent? Nous irons à Washington, nous irons à Philadelphie. Le terrain en fait et les interrogations d'avenir légitimes. A tout de suite.
Europe 1. Édition spéciale élection américaine.
Europe 1 Special Edition.
Et au soir de cette élection américaine, il est 6h de moins du côté de Washington, 13h37 donc aux États-Unis. Au soir de cette annonce, le 46e président américain s'appelle Joe Biden. Les toutes dernières informations, Fabienne Lemoyle.
Et l'annonce, elle remonte à il y a 2 heures maintenant. Tous les grands médias américains qui ont mis fin à un suspense de 4 jours. Joe Biden, lui, va s'adresser à la nation à 1h, 7h française depuis son fief du Delaware. Dans un tweet, il dit qu'il est le président de tous les Américains et on va écouter la joie de celle qui est désormais sa vice-présidente, Kamala Harris.
We did it,
on l'a fait, on l'a fait, Joe. Tu vas devenir le prochain président des États-Unis.
Et elle est actuellement au téléphone avec Joe Biden, Kamala Harris et Xavier Yvon. On vous retrouve à New York. C'est les résultats en Pennsylvanie, un des États clés qui a fait tout basculer en fait il y a 2 heures maintenant.
Oui, il y a 2 heures, comme vous l'avez dit, on était parti pour une nouvelle journée de décompte et de cartes électorales. Et effectivement, les chiffres de Philadelphie sont arrivés. Et là, CNN et les autres sont passés en spécial pour nous annoncer l'élection de Joe Biden. Je vais vous résumer la journée en une seule une, puisqu'on connaît déjà la une du New York Times. Il y a 3 mots inscrits dessus en très gros. Biden beats Trump. Biden bat Trump. C'est ce qu'on attendait depuis 4 jours. On savait que c'était l'issue inéluctable depuis quelques heures, mais voilà, c'est fait. La une du New York Times, je vous l'ai donnée. Joe Biden, donc vous l'avez dit, va parler à 20h depuis Wilmington, dans le Delaware. C'est là où il habite depuis des années. C'est là où il a passé quasiment toute la campagne. Ça fait donc 4 jours qu'il attend de pouvoir prononcer ce discours. Ça fait 1 an et demi qu'il fait campagne pour ce moment. Ça fait en fait toute une vie politique que Joe Biden rêve de ce discours. Hein. C'est sa troisième tentative pour accéder à la Maison-Blanche. En attendant, il a envoyé juste un communiqué très classique pour dire qu'il était honoré et qu'il allait être le président de tous les États-Unis. Et vous l'avez entendu, vous l'avez passé, communication beaucoup plus moderne sa vice-présidente Kamala Harris. Joe Biden a aussi été félicité par son ancien patron, Barack Obama, le 44e président des États-Unis, qui félicite le 46e. Et puis, je vais vous dire un mot du 45e, hein, Donald Trump, puisque Donald Trump, lui, aux dernières nouvelles, est toujours dans son golf de Virginie. Il était parti de la Maison-Blanche ce matin pour aller faire un golf. Il fait très beau en ce moment sur la côte est des États-Unis.
Écoutez, tant mieux pour lui. Oui.
Voilà, et c'est l'image historique de cette journée. C'est que là, on a les photos de presse, du pool de presse de la Maison-Blanche. On voit sur ces photos Donald Trump en vêtements de golf, avec une casquette, un club à la main, qui tape dans une balle. Il y a des voiturettes de golf autour de lui. Et il n'est pas réélu président des États-Unis. C'est une image assez historique et assez phénoménale. Donald Trump a quand même...
Mais toujours en fonction jusqu'au 20 janvier, hein, on le dit.
Oui, mais le moment où on annonce qu'il n'est pas réélu, il est en train de jouer au golf. Alors, il a quand même envoyé un communiqué pour dire que les médias et Joe Biden se précipitaient faussement et que cette élection n'était pas terminée. Il est pour l'instant très seul à le dire. Son avocat est le seul qu'on a entendu depuis, Rudy Giuliani, qui dit que Donald Trump ne concédera pas.
Et d'ailleurs, Xavier, à l'instant, le seul qui n'a pas félicité non plus Joe Biden, évidemment, c'est Donald Trump, mais celui qui félicite dans le camp républicain et qui est le premier ténor à le faire, c'est Mitt Romney, qui à l'instant félicite Joe Biden. On sait très bien que Mitt Romney n'avait pas vraiment les meilleures relations du monde avec Donald Trump.
Ce qu'on attend notamment, c'est Mitch McConnell, qui est le patron républicain du Sénat, qui est lui le vrai patron des républicains, et on attend évidemment sa réaction.
Alors, on le disait, beaucoup de réactions évidemment aux États-Unis. Vous nous avez fait entendre dès 18h à New York votre rue, Xavier, qui était en effervescence. Et l'endroit où ça se passe aussi, c'est évidemment aux abords de la Maison-Blanche où vous vous trouvez, Mathieu Bock, avec la foule qui n'a cessé de grossir.
Oui, exactement. Il y a encore des dizaines et des dizaines de personnes qui arrivent. Beaucoup de jeunes, hein, vraiment, c'est ça qui est marquant. Beaucoup de jeunes, des parents aussi avec leurs enfants qui veulent leur montrer un peu ce moment historique, mais c'est vraiment la jeunesse qui descend dans la rue. Et pour tout vous dire, il y a aussi des communautés. Il y a la communauté afro-américaine, beaucoup qui sont venus là. La communauté gay aussi qui est venue avec les drapeaux aux couleurs de l'arc-en-ciel et qui le disent comme ça. Et qui le disent, j'ai parlé avec plusieurs personnes et qui m'ont dit, on a été stigmatisés, on a été pointés du doigt, on a été mis à l'écart pendant 4 ans. Ça a été 4 ans de souffrance. Là, on revit, on revient un peu à la vie en tant que communauté. Et l'ironie de l'histoire, c'est vraiment le faire sous les fenêtres de Donald Trump. Alors Xavier Yvon vient de le dire, il n'est pas là, mais c'est encore plus marrant pour les personnes avec qui j'ai discuté. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils célèbrent une victoire, lui il est au golf comme si ça ne le concernait pas. Donc l'ambiance est vraiment à son paroxysme ici. Il y a un soleil, Xavier en a parlé aussi, il fait très beau, tout le monde est en short, tout le monde s'amuse. C'est une belle journée d'été même si on est en automne. Il y a vraiment une très bonne ambiance, très bon enfant, aucune tension, aucun partisan de Trump n'est venu, j'ai vu aucune casquette Make America Great Again. Donc c'est vraiment une très bonne ambiance. Il y a des concerts qui explosent un peu partout dans la ville. Il y a une scène qui a été montée avec des groupes de musique. Ouais,
voilà, on entend effectivement Mathieu Bock, l'ambiance.
Ils saluent les uns les autres, les groupes.
Autour
et
de vous.
C'est parti pour durer une bonne partie de l'après-midi encore.
Et vous allez continuer à nous le faire vivre évidemment sur l'antenne ce soir et encore évidemment demain toute la journée. Merci Mathieu Bock en direct de Washington. Beaucoup de réactions au niveau international. Première du côté du voisin canadien Justin Trudeau qui se dit impatient de travailler avec le président Biden. Réaction aussi de la chef de la Commission européenne Ursula von der Leyen et du président du Conseil européen Charles Michel qui eux aussi insistent sur la volonté de l'Union européenne de rebâtir avec les États-Unis un partenariat solide. Et évidemment, Adrien Beck, même volonté aussi affichée du côté français.
Absolument. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez les réactions européennes et dont celle d'Emmanuel Macron, eh bien, toutes ces réactions sont arrivées à peu près au même moment. Et évidemment, ce n'est pas un hasard. Ce soir, il y a une concertation entre les dirigeants européens qui ont réagi tous en cœur et d'ailleurs quasiment en utilisant les mêmes mots. Hein. Le peuple américain a élu son 46e président. Félicitations. Et maintenant, on travaille ensemble. Et c'est le message ce soir des Européens, que ce soit Emmanuel Macron, Giuseppe Conte ou encore l'Espagnol Pedro Sanchez. Beaucoup qui insistent aussi sur la solidité de la relation avec les États-Unis, une solidité qui semble être à retrouver si on écoute un petit peu ses réactions. Puis on insiste aussi beaucoup sur le mot coopération. Tout ça, c'est évidemment en miroir avec tout ce que ne faisait pas Donald Trump. On le voit ce soir, les Européens se montrent unis, car le risque, on le sait aussi, c'est que ses partenaires puissent penser que la politique, au fond, va reprendre un petit peu comme avant. C'est un petit peu ce qu'on craint d'ailleurs en France, et que par conséquent, certains puissent vouloir un peu abandonner l'Europe pour retourner plutôt du côté des États-Unis, alors qu'effectivement, Donald Trump avait été un peu un facteur d'unité européen. On se souvient d'ailleurs que un bon nombre de dirigeants, dont Angela Merkel, entretenaient des relations notoirement mauvaises avec lui. Et ça, au moins, ça devrait changer avec Joe Biden.
Adrien Beck, merci pour ces dernières informations. Fabienne Lemoyle sur l'antenne d'Europe 1, 19h44, au cœur de cette édition spéciale. On va se retrouver dans un instant avec un nouveau spécialiste des États-Unis. Il a écrit « Être américain aujourd'hui, les enjeux d'une élection présidentielle ». Et on va se mettre dans la peau des Américains, des pro-Trump et des pro-Biden. Didier Combeau nous rejoint. Ainsi que François Gémen, chercheur spécialiste des migrations, qui nous parlera de l'accord de Paris. Les États-Unis reviendront-ils au cœur de ces négociations? Roland Lescure également avec nous, député des Français de l'étranger. À tout de suite.
Présidentielle américaine. USA 2020. Europe 1, au cœur de l'événement.
On connaît depuis 2 heures maintenant le nom du 46e président américain. Il s'agit de Joe Biden qui, après 3 tentatives, 48 ans de vie publique, l'emporte donc face à Donald Trump et met fin à une séquence politique inédite qui a secoué l'Amérique et le monde. Il deviendra le 20 janvier 2021 le 46e président officiellement donc des États-Unis. Bonsoir Didier Combeau.
Bonsoir.
Bonsoir, vous avez publié chez Gallimard « Être américain aujourd'hui, les enjeux d'une élection présidentielle ». Les Américains sont-ils, alors certains sont très heureux ce soir, on le comprend bien, la moitié des États-Unis, sont-ils perdus alors que 70 millions d'Américains ont voté tout de même Donald Trump, Didier Combeau?
Oui, c'est bien toute la question. Une partie de l'Amérique, évidemment, saute de joie à l'élection de Joe Biden. Mais à cette élection, il l'a remportée de justesse, alors que Trump avait tout contre lui. Hein. Il avait sa mauvaise gestion de la crise du Covid. Il avait la presse, l'essentiel de la presse contre lui. Mm-hmm. Les sondages le disaient perdant. Et malgré tout, il s'en est fallu de peu que Joe Biden ne perde son pari. Et puis aussi, il y a eu le recours massif au vote par correspondance. Et on sait que le vote par correspondance avantage les démocrates, car beaucoup d'abstentionnistes sont du côté démocrate, hein, les Afro-Américains et les jeunes. Et le fait de leur faciliter l'accès au vote en mettant en place le vote par correspondance ou en l'étendant a été au bénéfice des démocrates. Donc c'est une victoire, mais c'est quand même une victoire à l'arraché.
Oui, je voudrais vous opposer la réflexion d'Adeline qui nous écrit sur le hashtag Europe 1 et qui nous dit aurait-il gagné Donald Trump s'il n'y avait pas eu le Covid et cette mauvaise gestion qui peut-être lui a coûté une part de son élection ce soir, Didier Combeau.
Bien, quand on regarde les résultats, oui, on peut se demander s'il aurait gagné, effectivement, parce que non seulement il y a la mauvaise gestion de la crise du Covid, mais il y a aussi la crise économique. Hein. Oui. Un des grands atouts de Trump, c'était le bon état de l'économie. Et l'économie a été beaucoup dégradée par la crise du Covid. Et puis, le vote par correspondance dont je parlais, qui a été mis en place en raison du Covid, qui a aussi favorisé les démocrates. Donc, s'il n'y avait pas eu le Covid, il est fort possible que Trump ait été réélu. Et ça, évidemment, le président Biden et la vice-présidente Kamala Harris devront en tenir compte dans leur façon de gouverner, très certainement.
Oui, le pari est énorme pour les 4 ans qui viennent. Et c'est Barack Obama, l'ancien président américain, dont Joe Biden était le vice-président, qui le dit ce soir, tout en félicitant son successeur. Il l'annonce, il sera confronté à une série de défis extraordinaires qu'aucun nouveau président n'a jamais connus. Une pandémie qui fait rage, une économie et un système judiciaire inégalitaire, une démocratie en danger et un climat en péril. Voilà ce qui attend Joe Biden et son équipe pour les 4 ans qui viennent, Didier Combeau. C'est très compliqué, la tâche est lourde.
Ah, On ne peut pas mieux le dire. Hein. Le gouvernement va être pris en étau entre les électeurs qui ont voté Trump et puis l'aile gauche du Parti démocrate qui va exiger une réforme de la police, qui va exiger une réforme de la justice pénale, qui est extrêmement sévère et qui fait que beaucoup d'Afro-Américains sont derrière les barreaux. Il va devoir faire face. On n'en parle plus beaucoup parce que le Covid est arrivé, mais il y a la crise des opioïdes hein, qui fait des ravages. En particulier chez les blancs non diplômés. Mmh. Donc, il y a la question de l'assurance santé, de l'extension de l'Obamacare. Donc, il y a toutes ces questions-là. Et puis, la question de l'environnement, bien entendu. Donc, tout ça, ça va être des questions extrêmement difficiles, en plus de la Covid et de la crise économique.
Didier Combeau, merci. Je renvoie à votre ouvrage chez Gallimard. Être américain aujourd'hui, les enjeux d'une élection présidentielle. Chers amis auditeurs, on se retrouve dans un instant avec Roland Lescure, député La République En Marche des Français établi hors de France, qui nous donnera son sentiment sur cette élection ce soir. Et François Gémen, on va parler des accords de Paris.
Europe 1.
Édition spéciale élection américaine.
Europe 1 Special Edition.
19h52, encore quelques instants ensemble jusqu'à 20h pour revenir sur l'élection du 46e président américain Joe Biden. C'est Roland Lescure qui nous rejoint, député La République En Marche des Français établis hors de France. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Vous qui dites il y a quelques instants que le populisme a perdu une bataille mais pas la guerre, vous vous satisfaites évidemment de l'élection de Joe Biden qui est encourageante à la fois pour les États-Unis mais aussi pour les relations internationales.
Oui, c'est une bonne nouvelle pour les États-Unis, ça j'en suis convaincu, mais aussi pour le monde, l'Europe et la France. On avait un président totalement imprévisible qui pouvait changer d'avis presque du jour au lendemain ou d'une heure sur l'autre. On se souvient du G7 au Québec où il avait signé un communiqué pour le démentir deux heures plus tard. Donc on va avoir un président plus prévisible, on va avoir un président plus ouvert qui va s'inscrire dans le multilatéralisme. Donc c'est évidemment une bonne nouvelle pour nous tous.
Vous êtes aussi de ceux qui soutiennent depuis un moment sa vice-présidente, qui était sa colistière, Kamala Harris, dans son nouveau style qu'on a évoqué, qui nous rappelle un peu celui de Barack Obama. Voilà un beau visage de l'Amérique, souligne Manuel Valls ce soir par la même occasion.
Ben oui, c'est d'abord la première femme élue à la présidence des États-Unis. Elle est vice-présidente, elle sera peut-être un jour présidente. Elle est évidemment issue de la communauté afro-américaine. Elle a vécu à l'étranger, donc elle a effectivement à la fois une image et une réalité de son expérience qui est ouverte sur le monde, et ça c'est une bonne nouvelle. Elle va aussi, je pense, contribuer, j'espère, à réconcilier l'Amérique, parce que le défi majeur, vous l'avez dit avec votre invité juste avant, de la présidence de Biden, c'est de réconcilier l'Amérique avec elle-même. Il va falloir la réconcilier avec le monde, mais aussi avec elle-même, et je pense que l'un et l'autre peuvent le faire. C'est déjà ce qu'il a essayé de faire dans ses premières interventions télévisées depuis 2-3 jours, mais il y a du boulot.
Dans un contexte sanitaire, on ne l'oublie pas parce qu'on a le sentiment que tout est balayé ce soir, mais cette réalité, elle est exigeante, elle est même alarmante. Les États-Unis qui ont payé le plus lourd tribut au Covid, le grand nombre de morts dans le monde, Roland Lescure, cette réalité-là, elle peut être aussi favorisé cette élection. Elle, en tout cas, c'est le terreau sur lequel ont pu voter tous les électeurs.
Oui, franchement, je ne sais pas si on peut refaire le match. Ce n'est pas facile, parce que n'oublions pas non plus que parmi les multiples rebondissements de cette campagne, il a lui-même été malade, il a mis en scène le terrassement du virus en quelques jours. On se souvient de cette scène totalement surréaliste où il descend de l'hôpital sans masque, avec sa casquette, pour dire en gros, je l'ai battu et donc je peux battre le monde entier. Donc franchement, c'est difficile de savoir comment tout ça a joué. Clairement, la gestion du Covid a été pour le moins malencontreuse aux États-Unis. Ça ne veut pas dire que ça va être facile maintenant que Joe Biden est président. C'est un pays fédéral dans lequel les responsabilités sont partagées entre Washington et les différents États. Et on sait bien que les États ont géré la COVID de manière très, très différente.
Évidemment.
En fait, suivant que vous étiez républicain ou démocrate, vous étiez masque ou pas masque.
C'est ça.
Donc c'est quand même compliqué tout ça.
Ouais. Et voilà pourquoi vous plaidez aussi et vous saluez cette politique d'apaisement qui semble s'envisager avec cette nouvelle équipe. Maintenant, le travail, le vrai travail commence. Roland Lescure, merci de vos propos ce soir, député des Français établis hors de France. Vous étiez sur Europe 1. Et je voudrais que nous rejoignions désormais François Gémen pour un sujet d'importance, les accords de Paris. On a beaucoup parlé du défi climatique. Bonsoir François Gémen.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur spécialiste des migrations. Vous travaillez beaucoup évidemment sur le climat. Et votre position, votre discours est assez iconoclaste. Quand je vous demande si c'est une bonne chose d'attendre le retour des États-Unis dans l'accord de Paris, que nous répondez-vous ce soir ?
Je ne suis pas si sûr. En fait, je ne voudrais pas casser l'ambiance ce soir et je sais que Joe Biden, donc le nouveau président, a annoncé que ça serait sa première décision en tant que président, que dès le 21 janvier, les États-Unis reviendraient dans l'accord de Paris. Mais en fait, je ne suis pas si sûr que ça soit une bonne idée, parce que d'abord, on n'a pas besoin d'être dans l'accord de Paris pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre.
Oui.
Et puis surtout, le but de l'accord de Paris, c'est de fournir un cadre stable et durable à la coopération internationale et que finalement, un retour des États-Unis laisserait un peu l'impression qu'on peut aller et venir dans l'accord au gré des élections. Donald Trump en est sorti, Joe Biden reviendrait. Que se passerait-il en 2024 si Ivanka Trump était élue, par exemple ? Est-ce que les États-Unis sortiraient à nouveau ? Et donc, je crains un peu le signal d'instabilité que ça donnerait dans l'accord de Paris. Et puis, quand même, au risque de doucher les enthousiasmes, je pense qu'il faut quand même rappeler aussi que les États-Unis n'ont jamais été un grand supporter de l'ambition internationale sur le changement climatique. Barack Obama n'était pas vraiment très écolo,
oui.
Bill Clinton n'était pas très écolo non plus, et donc je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moment, au moment où on a besoin d'une ambition renouvelée sur le climat,
oui.
De faire revenir les États-Unis, même si j'entends bien la force du symbole, mais je crains l'instabilité que ça provoquerait pour les marchés et pour les entreprises.
Oui, et en dehors de l'instabilité, on a bien compris que c'était essentiellement pour vous de l'ordre du symbole, François Gémen, c'est-à-dire qu'il faut au contraire oui, que les États les plus volontaires, les plus ambitieux, redoublent d'initiatives ce soir, très clairement.
Je pense qu'effectivement, par rapport à un sommet mondial de l'ONU très important qui s'annonce en novembre 2021, qui aura lieu à Glasgow, la COP26, je pense qu'il faudra au contraire que les États les plus ambitieux, quelque part, avance et ne se laisse pas freiner par les États les plus fossiles et les plus réticents à l'action. Je pense au Brésil, je pense à la Russie, je pense à l'Australie. Et donc, effectivement, attention à ne pas nous faire tromper par le symbole qui pourrait réduire l'ambition internationale. Or, nous avons besoin de cette ambition internationale pour le moment. Mais je me réjouis évidemment que Biden soit élu président. Je me réjouis évidemment du réengagement des États-Unis dans la coopération internationale.
Merci François Gémen, chercheur spécialiste des migrations. Merci à tous d'avoir suivi cette édition spéciale. Nous avons appris donc à 17h30 l'élection de Joe Biden, 46e président américain. Un grand merci à Naïma Benchemann qui a programmé en direct au gré où nous la faisions cette émission. Merci à Fabienne Lemoyne d'avoir assuré la moitié des éditions. Sophie Tussaud, vous la retrouvez dans un instant. Dès demain, à partir de 6h, c'est Pierre de Villeneuve qui, avec les correspondants mobilisés, reviendra sur ce moment historique pour les États-Unis d'Amérique. Merci de votre fidélité et dans quelques instants, 20h.